Bonjour et bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Bonjour, comment ça va? Bonjour Bichou, merci pour ton resub. Pardon. Bonjour, bienvenue. Ça roule ou quoi? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Hop. Tac. Ça va et toi? Ouais, ça va. Merci Gagestream. Merci. Ouais, ça va tranquille. Ça va tranquille, j'étais en train de faire une sieste. Ouais, j'étais en train de faire une sieste. Non, mais c'est important. J'étais en train d'écouter la niche parlementaire des LR, là. Merci, Max Palu, pour ton resub. Bienvenue à vous. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est demain matin les motions de censure. Les motions de censure, c'est demain. C'est demain matin, 9h du mat. Ce qui ne m'arrange pas, mais on va faire avec. Enfin, on va essayer. Ouais. Demain matin, 8h du mat. J'ai rien compris parce que moi j'ai compris que... Enfin, on était en stream hier ensemble, je suis pas fou. On était en stream hier ensemble et la présidente, elle a dit que la date d'examen des motions de censure serait discutée à l'occasion de la conférence des présidents qui se tiendra vendredi matin. Bon, moi, je vous ai annoncé, je sais pas, ce sera peut-être la semaine prochaine du coup. Et apparemment non, parce que là, l'Assemblée nationale a publié ce qu'on appelle la feuille verte, qui est le programme. Le programme de travail, et apparemment c'est demain matin les motions de censure. Hein. Moi, c'est ce que j'ai lu. Hein. Donc, bizarre. Il pourrait penser à ceux qui bossent. Hein. D'autant que vous êtes légalement obligé de regarder mon stream. Hein. Ah, bah oui, bah, c'est motion de censure, stream de Jean Massier, c'est la règle. C'est la Constitution, ça rigole pas. Hein. Donc, du coup, rendez-vous demain matin. Rendez-vous demain matin. J'ai fait exprès de déprogrammer le réveil que j'avais programmé avant-hier. tu remets ton réveil. Je vais rien savoir. Je te donne le nom de mes chefs pour les prévenir. Ouais, vas-y, envoie. Envoie le nom de tes chefs, je leur envoie un mail. Je leur explique qu'il y a des règles dans ce pays. Je vais mettre le live au boulot, mes collègues vont rien piffer. Bah très bien. Non, mais mettez le live au boulot, vous avez le droit. Non, mais je sais pas, du coup, j'espère que j'hallucine pas, mais normalement, c'est bien prévu demain dans la feuille verte. On avait parlé avec Perceval, vendredi 23, 9h du matin, motion de censure, discussion commune. Wow. Moi j'obéis, je me cale sur l'Assemblée nationale. Merci Dracarel, je t'écouterai pendant mon ascension en ski. Oh ! Oh la chance, il y en a qui font du ski et tout. Bah profitez bien, hein. Mettez-vous bien. Tac. Les autres, vous faites du ski ou pas? Attends, c'est les vacances là ou pas? Je comprends rien. 22 janvier, on est en période de vacances scolaires ou pas du tout? Moi, j'y comprends plus rien en vacances scolaires. J'ai pas d'enfants en même temps. C'est facile de s'y retrouver. Enfin, c'est pas facile du coup de s'y retrouver. Il y en a qui se blessent au ski. Aïe! Ah merde. Tu t'es fait quoi? T'es fait la cheville? Courage, hein. Est-ce que tu peux mettre un mot dans le carnet de mon fils? Je pourrais pas l'emmener à l'école. Ah ouais, les enfants sont obligés de regarder aussi. Hein. Moi, je n'aime pas le ski. D'accord. Bah, t'es pas obligé de faire du ski, tu peux aller à la montagne. Pas de ski pour moi, je suis en formation. Ah. D'accord. Non, c'est pour ça qu'on y va quand il y a le moins de monde. Ah oui, logique, remarque. Oui, du coup, c'est moins cher. Il doit être en vacances scolaires. D'accord. J'aime le ski. J'aime pas le ski, pardon. Ok, d'accord. Vive LFI. Aucun rapport, mais ok, d'accord, si tu veux. Genou, je peux regarder un stream qualitatif pour compenser. Putain, tu t'es fait le genou, c'est moche. Courage, hein. T'as fait mal en plus le genou. Je suis en clinique, ça occupera ma matinée de demain. Let's go. Il n'y a plus de neige dans les Vosges. Il n'y a plus de neige dans les Vosges. On nous a retiré la neige dans les Vosges. Le gouvernement nous a retiré la neige dans les Vosges. Merde. Terrible. Paraplégique, je peux pas faire de ski. Ah oui, effectivement, c'est. Ça doit être technique, ouais, je sais pas. Ok. Pour info, les motions sont bien à l'ordre du jour demain matin sur le site de la haine. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je vous le dis. C'est que j'ai vu comme vous, enfin, j'ai vu comme toi l'ordre du jour. C'est pour ça que je vous préviens. Je préfère vous prévenir. Parce que sinon, ça veut dire que c'est moi qui vous réveille demain matin. Hein. Vous n'avez pas envie de ça. Hein. Non. Non, c'est pour ça que je vous invite à mettre votre réveil, quoi. Voilà. Réveille-moi, STP. Non. Non. Non, 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 non. Non, non, puis en plus, ça va pas être un réveil avec un bisou et un café et un croissant, hein. C'est pas le genre de la maison, hein. Je vais te taper dessus avec l'ordre du jour de l'Assemblée. Non, non, c'est moche. Et mon bisou? Non, il n'y a pas de bisou. Pas de bisou, il y a la Constitution. C'est tout. Pour les gens avec un handicap moteur, il y a des genres de fauteuils sur ski pilotés par un bon skieur à l'arrière. J'ai déjà vu ça, effectivement. Je trouve ça très cool que ça existe. Ouais. Effectivement. Mais je ne suis pas allé au ski depuis 15 ans. On était allé au ski avec des potes. Genre une journée, on avait fait une journée de ski parce qu'on était dans les Pyrénées. On n'était pas loin des Pyrénées, c'est ça, on n'était pas loin des Pyrénées. Et un jour, on s'est dit, tiens, si demain on prenait la bagnole et on allait genre dans une station de ski pour voir s'il y a moyen de louer des skis pour une journée et tout. Enfin, vraiment l'idée, quoi. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et on n'était pas du tout. Enfin, genre, on n'avait pas les vêtements, tu vois, pour faire du ski. On était en jean et tout. Ça n'a aucun sens. Et donc, on a fait du ski en jean. Ce qui est une connerie, ne faites pas ça. Et ça nous a coûté un bras, ça a servi à rien. Et voilà. Mais bon, on a fait du ski. J'arrive, je sais pas de quoi ça parle, mais j'ai ma première étoile. Info intéressante. Info inintéressante, mais je le dis quand même. Ah, bravo pour la première étoile. Bravo pour la présence. C'est très très bien la première étoile. C'est quoi les grades dans l'armée déjà? J'ai oublié. C'est quoi les grades? On commence avec les flocons ou les oursons? Comment ça marche de nos jours? Les jeunes. Comment ils font? C'est ourson, étoile. Après, il y avait les chamois, je crois. Oh, je sais plus. Comment ça marche? Ah, il y a les piou-piou. Les piou-piou. Le piou-piou, c'est le jardin des neiges. C'est pour les petits enfants. Ouais, c'est les piou-piou, c'est pour les tout-petits, ouais. C'est pour les petits enfants. Trois étoiles, puis chamois. D'accord, c'est directement première étoile, deuxième étoile, troisième étoile, et après chamois, et après il y a les flèches. Merci, Lutadici. Et après il y a les flèches, je sais même pas ce que c'est. D'accord, ok. Flocons et... Ah, il y a les flocons avant les étoiles. Flocons, étoiles, chamois, flèches, puis outdoor. Outdoor? Merci, Yumizuma. Outdoor, t'es sûr? C'est pas une récompense dans le cinéma pornographique, le outdoor? Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est... Après les pistes de ski, bon, c'est vous qui voyez, mais. Flocon, ourson, étoile, chamois, flèche. Chamois spécial, flèche géant, fuse, descente. Blanchot, sifflotte, garrot, loup. Ourson, flocon, 1, 2, 3 étoiles, étoiles de bronze, d'argent et d'or. J'adore ce que personne n'est d'accord. Ça, c'est. Ah, ça, c'est bien ça. Ça. Absolument personne n'est d'accord. À mon époque, c'était piou-piou, ourson, flocon, première étoile, deuxième étoile, troisième étoile, étoile de bronze, étoile d'argent, étoile d'or, chamois, flèche. Ma source, c'est le site de l'ESF. Ah bah ça, oui, ça doit être une bonne source, effectivement, le site de l'ESF, t'as raison. Je comprends pas cette discussion. Moi non plus, je t'avoue, je suis un peu perdu. Je suis un peu complètement perdu. Mais je retiens qu'il y a les piou-piou, et ça, c'est très important. Les piou-piou. Les enfants, s'il y en a parmi vous qui ont eu le piou-piou, félicitations. Tinky Winky, Gipsy, Lala et Po. Stock platine. Comment sommes-nous passés du code de l'Assemblée nationale au piou-piou? Bah, écoute, je sais pas. On s'est perdu. Je propose une réforme des grades des écoles de ski en vue d'une harmonisation européenne dans l'intérêt de la lisibilité du système. J'ai eu deux fois mon piou-piou parce que le moniteur des oursons me faisait peur et du coup j'ai été rétrogradé. Je rigole, mais c'est pas drôle parce que tu devais pleurer et tout, hein. Ça devait pas être marrant. Oh merde, t'as été rétrogradé d'ourson à piou-piou. Oh merde. Oh, c'est moche. Non, non, Parti en cour martiale. Ah ouais. On parlait des niches parlementaires de droite. Ah ouais. Alors, mesdames et messieurs, alors pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent pas, aujourd'hui, c'est le jour de la niche parlementaire du groupe de la droite républicaine à l'Assemblée nationale. C'est le groupe des Républicains. Niche parlementaire, je rappelle à celles et ceux qui ne le savent pas qu'une niche parlementaire, c'est un jour dans le calendrier de travail de l'Assemblée nationale qui est réservé à un groupe de l'Assemblée. Et c'est au cours de ce jour que le groupe en question a la possibilité de faire voter des lois dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est son jour à lui, c'est lui qui décide de l'ordre du jour, c'est lui qui propose des projets de loi, des propositions de loi, pardon. C'est son moment, c'est son jour. Vas-y, tu peux y aller. C'est ton tour. Donc aujourd'hui, c'est au tour des Républicains. Républicains qui nous ont prévu une journée chargée en propositions de loi. Pourquoi niche? Niche, c'est juste un terme qui s'est imposé dans le langage courant, hein, c'est pas un terme juridique, hein. C'est l'expression qu'on utilise, que tout le monde utilise pour désigner les jours réservés à l'Assemblée nationale pour les groupes minoritaires. On appelle ça une niche parlementaire. C'est un petit endroit protégé pour toi, voilà, c'est ça, c'est ta niche. C'est à quelle fréquence les niches? Les niches, il y en a une par groupe et par an. Voilà. C'est tout. Il y a une niche par groupe et par an. Il y a un jour dans l'année où c'est ton tour de proposer des trucs. Après, t'y arrives, t'y arrives pas, c'est ton problème. Mais tu proposes. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme? Alors, je ne sais pas si c'est dans l'ordre ce que je vais vous dire, si c'est dans l'ordre d'examen, parce que l'ordre d'examen est décidé par le groupe. C'est pas. Voilà. Mais sur le site de l'Assemblée, il nous est dit que aujourd'hui, les Républicains ont proposé une résolution européenne visant à inscrire la mouvance des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. J'ai regardé tout à l'heure un peu rapidement les débats, on était en plein dedans. Ça gueulait, c'était le bordel et tout, machin. Il y avait des suspensions de séance, des rappels au règlement, des amendements, des prises de bec entre la gauche, évidemment, et la droite et l'extrême droite sur ce sujet ô combien explosif. Donc, proposition de résolution, frères musulmans terroristes. OK. On a également une proposition de résolution visant à suspendre toute nouvelle création d'instances administratives pour lutter contre le phénomène d'agencification de l'État et rendre plus lisible le fonctionnement de l'administration française. Les Républicains sont en guerre contre les agences. Les agences, les comités Théodule, les conseils indépendants, les machins et les trucs qui pullulent et qui rendent l'action de l'État qui rendent l'action de l'État illisible, incompréhensible, dilution des responsabilités. Il n'y a rien qui va, il faut supprimer les agences. Et tant qu'à faire, les agences écolo, les agences culturelles, les agences, enfin les trucs pas de droite, quoi. Donc voilà, guerre, mais ça pour le coup c'est assez historique, hein, guerre de la droite contre les agences de l'État, et donc ils ont proposé une résolution pour suspendre la création de toute nouvelle instance, jusqu'à nouvel ordre. Bon. Ok, très bien. Alors, les deux trucs que je viens de vous dire, ce sont des propositions de résolution. Une résolution n'est pas, à proprement parler, une proposition de loi, puisqu'une proposition de loi implique l'écriture d'articles qui ont vocation à devenir des normes juridiques. Une résolution, c'est un texte d'orientation politique qui dit quelque chose, disons que c'est une lettre d'intention qui peut avoir un poids politique important et qui vise à ce que l'Assemblée nationale adopte une position, mais qui n'est pas une loi pour autant. Une position, c'est un principe. Dans les conseils municipaux, régionaux et départementaux, on appelle ça un vœu. On peut voter des vœux. Voilà, le conseil municipal émet le vœu que, et là vous pouvez voter ce que vous voulez, c'est un vœu. Tac, 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 tac. Donc voilà, donc deux propositions de résolution, tac, tac, tac. Ensuite, proposition de loi, cette fois-ci, visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Oui. Ça revient encore et encore, la droite et l'extrême droite veulent créer une présomption de légitime défense pour les policiers qui font usage de leur arme à feu dans l'exercice de leurs fonctions. Ils seraient donc à la charge de la victime de démontrer qu'elle n'était pas en train d'attaquer le policier. Enfin, la victime, elle est morte en général, donc c'est un peu compliqué, mais bref, vous avez compris, quoi. Présomption de légitime défense, c'est marrant de proposer ça alors qu'il y a à peine 48 heures, il y a un homme qui est mort dans un commissariat après avoir reçu des coups de la part de policiers. Bref, pardon, je m'égare. C'est capillotracté, mais est-ce qu'un groupe peut proposer une résolution pour lancer un sujet et voir si ça mord auprès du grand public en vue d'élections, par exemple ? Mais toutes les propositions servent à ça. Enfin, on fait de la politique, il y a un moment, il faut être... Oui, évidemment. Les groupes proposent des lois, proposent des résolutions, proposent des trucs pour plaire à un électorat. C'est pas grave, c'est pas sale. Enfin, c'est la démocratie. Les gens, ils adoptent pas. La présomption de légitime défense pour les policiers, c'est évidemment une proposition qui séduit un électorat sensible à la question du maintien de l'ordre, de l'autorité, de la sécurité, des gyrophares, de la police, tout ça. Bah oui, 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 bien sûr, évidemment. Donc, bien sûr. Ok. Tchoutoum, tchoutoum, tchoutoum. Donc, proposition. Donc, légitime défense, présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Ensuite, nous avons une proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai. Le 1er mai. Oh putain, ça aussi, c'est un débat qui revient tous les ans, tous les ans. Mais oui, c'est vrai, ça aussi, c'est une marotte de la droite. Enfin, je dis marotte, pardon, hein, je veux pas être dépréciatif vis-à-vis de la droite. C'est un truc que la droite porte depuis longtemps. Le 1er mai, qu'est-ce que c'est que ces jours fériés ? Qu'est-ce que c'est que ces pays où personne travaille ? Pourquoi donc est-ce qu'on empêche les honnêtes travailleurs de travailler le 1er mai ? C'est scandaleux, c'est intolérable. Les artisans, ils peuvent pas ouvrir leur boutique. Le boulanger peut pas vendre du pain. Vous vous rendez compte ? On empêche les gens de travailler, machin. 1er mai, en plus le 1er mai. 1er mai, c'est un truc de gauche. 1er mai, c'est la grève. 1er mai, c'est la fête du travail, la fête des travailleurs. Oh là là. Oh non, non, oh non. Oh non. Donc ouais. Ok, d'accord. Donc proposition de loi pour permettre aux gens de travailler pendant un jour férié. Les pauvres salariés qui sont privés de travail, vous vous rendez compte? Salaud. Ok, d'accord. Proposition de loi. Ensuite, proposition de loi visant à interdire le voilement des mineurs dans l'espace public. Ah, le port du voile. Le port du voile pour les enfants dans l'espace public, à défaut de proposer l'interdiction du voile tout court, la droite propose l'interdiction du voile pour les enfants. Bon, bah ça aussi, un débat récurrent, proposition récurrente hein, de la part de la droite dans le débat public. C'est pas anticonstitutionnel, ça? Si, très probablement. Mais à ce stade, c'est pas le sujet. Hein. Voilà. Disons que la droite n'est ni la première ni la dernière à proposer des lois légèrement démagogiques, pas du tout applicables. D'ailleurs, non, mais puisque tu en parles, c'est intéressant. J'ai lu le Conseil constitutionnel a fait sa rentrée, les vœux du président Richard Ferrand, le président du Conseil constitutionnel, a prononcé un discours de vœux dans lequel il a étrillé la propension qu'ont certains politiques à faire adopter des lois en sachant pertinemment qu'elles sont contraire à la Constitution, juste pour se faire mousser auprès de l'opinion publique. Notamment la loi sur la délinquance des mineurs de Gabriel Attal, par exemple, ce genre de truc. Et je suis d'accord avec Richard Ferrand sur le côté, ça commence à bien faire. Ces députés qui se refont une petite gloire médiatique sur le dos de la Constitution en faisant voter des trucs, en sachant parfaitement que ça ne sera pas retenu par le Conseil constitutionnel, mais en s'en lavant les mains. En plus, c'est pratique, ça permet de taper sur le Conseil constitutionnel publiquement derrière. Ah bah oui, ah bah du coup, ah bah, bah c'est pratique, ah bah forcément. Ah oui, bah oui. Ah non, tu peux gagner des électeurs facilement comme ça, hein. Tu proposes un truc anticonstitutionnel, le truc est censuré, tu fais oh, mais enfin, qui sont ces juges qui censurent? Mais c'est intolérable, machin et tout. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça, c'est pénible. Enfin, c'est pas pénible, c'est grave. C'est grave pour l'état de droit, c'est grave pour la démocratie. C'est non, en fait. Tac, 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 tac. Donc, interdiction du voile dans l'espace public pour les mineurs. Ensuite, proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement en 2026. Oui. Alors, pareil, non, mais oui, enfin, c'est un peu technique, même si c'est politique. L'intéressement et la participation, vous savez ce que c'est, l'intéressement et la participation, ce sont des dispositifs qui permettent aux entreprises de donner à leurs salariés le fruit des bénéfices de l'entreprise, une partie des fruits des bénéfices de l'entreprise. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui existent, c'est pour ça qu'on parle d'intéressement, de participation selon ce qui existe, mais c'est une forme de redistribution des bénéfices d'une entreprise dont peuvent bénéficier les salariés selon des règles qui sont prévues par l'entreprise, etc. C'est un truc qui est soutenu pour le coup par la droite, là aussi depuis longtemps, pas que par la droite, hein. L'intéressement, la participation ont été développés et défendus, y compris à l'époque du quinquennat de François Hollande, y compris par les macronistes. Ouais, carrément. C'est des primes en général. C'est pas, alors, ça ressemble à des primes, c'est pas tout à fait des primes, parce qu'une prime, c'est décidé par ton manager ou par ta direction selon des modes de calcul qui appartiennent à l'entreprise. Là, on parle bel et bien d'intéressement aux bénéfices de l'entreprise. Donc, en fait, c'est un calcul sur la base des bénéfices réalisés par l'entreprise. Voilà. Dida dida doum. D'ailleurs, non, mais c'est une vraie question. Il y en a dans le chat qui ont de l'intéressement ou de la participation dans leur entreprise? Vous touchez des ronds chaque année ou presque? Ah ouais, il y en a plein! Ah ouais, il y en a. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Fonctionnaire ici. Ah. Tain, non seulement t'as pas de bénéfices, mais en plus t'as pas de budget. Ouais, non, c'est pas tout de suite. Ce sera pas pour tout de suite l'intéressement dans la fonction publique. Ok, d'accord. Non, mais d'accord, ok. Bah, vous êtes vachement nombreux. Bah voilà. Vous touchez. Oui, mais alors faut plisser les yeux. Ah oui, alors parfois. Parfois, c'est un peu humiliant. C'est-à-dire que parfois, tu vas toucher 20 balles. Hein. Alors, soit ça veut dire que l'entreprise a fait très peu de bénéfices cette année. Donc, évidemment, tu divises, machin. Enfin, bref, tu te rends compte quoi, que c'est pas ouf. Soit c'est que l'entreprise a décidé que les salariés allaient toucher une toute petite part des bénéfices et que c'est les actionnaires qui allaient s'en mettre plein les fouilles cette année encore. Ah, bah ça, ah bah voilà. Non, mais ça, après. Quatre mille euros, on a eu une année. T'as touché 4 000 balles? Non, genre c'est toi qui as touché 4 000 balles? Ou c'est 4 000 balles réparties collectivement dans tous les salariés de la boîte? Le chat de CSP+, en fait. Ah non, 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 non. Non, 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 l'intéressement, la participation, c'est pas que pour les cadres, hein. On ne parle pas de stock options ou d'acquisition d'actions d'entreprise au cours des ans et tout. Non, 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 c'est aussi les salariés, les employés qui peuvent être concernés par des mécanismes de participation. Je m'appelle un salarié, quoi. J'ai eu 700 euros d'investissement, d'intéressement, pardon. Ok, pas mal. J'ai pris 7 000 et 8 000 les 2 dernières années. Et t'es toujours pas abonné. Non, pardon, non, j'arrête. En alternance chez Orange, j'ai eu 2 000 euros. D'accord, ok. Ah oui, donc ça peut représenter des sommes rondelettes. Ça peut représenter des. Non, mais tant mieux pour vous. Non, non, mais tant mieux pour vous. Oh là là. Non, non, mais c'est super. Tant mieux. Moi, j'ai rien vu, moi. C'est qui mon employeur? Ah, bah, c'est moi. Oui, donc, oui, non. Mon patron est un con. Ok, donc participation et intéressement en 2026. D'accord, donc ça, proposition de loi des Républicains. Proposition de loi visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d'exactions lors de rassemblements ou de manifestations. Ah oui! Ah bah oui, non mais ça aussi, bah oui, non mais évidemment. Les casseurs en manifestation. Vous croyez qu'on vous voit pas là? Les casseurs, les gens qui cassent, les gens qui font de l'exaction. Plus d'alloc, plus d'allocation. Ça vous apprendra à casser. Ou alors vous faites pas attraper, quoi. Ça non plus, c'est pas constitutionnel. Probablement pas. Je sais pas, j'ai pas la jurisprudence sous les yeux, mais je suppose que le Conseil constitutionnel, il va tiquer sur ce genre de truc en disant non, mais de quoi? Non. Probablement pas constitutionnel, mais ça aussi, tout à fait efficace aux yeux d'une partie de l'opinion publique. Ça, les casseurs en manifestation, c'est très mal vu par tout un électorat qui effectivement souhaite qu'on les attrape, qu'on les emprisonne, qu'on les tabasse, qu'on leur coupe leurs allocations, qu'on leur coupe les bras, j'en sais rien, peu importe. Mais voilà. Merci à MoBDX. Ok. Proposition de loi hein, sur donc ça couper les allocs aux casseurs en manifestation. D'accord. Dadadadada, quoi d'autre? Proposition de loi visant à interdire le maintien dans l'hébergement d'urgence aux immigrés illégaux. Merci Action Thomas. J'essaye de me maintenir, j'essaye de pas partir en couille, machin, de trop exprimer mes opinions politiques personnelles qui ne regardent que moi, mais interdire le maintien dans l'hébergement d'urgence des immigrés illégaux. D'accord. Tu peux pleurer un coup, on jugera pas. Ouais. Mais c'est ignoble. Enfin, pardon, mais c'est atroce. C'est quoi? C'est quoi le truc, quoi? Dorme dans la rue, c'est ça? On... T'as pas de papier, tu dors pas au chaud. C'est quoi le... On parle de l'hébergement d'urgence, hein. On parle des gymnases qui sont ouverts pendant les périodes hivernales pour permettre aux gens de ne pas se retrouver seuls par moins 10 degrés dans la nuit. Enfin, ouais, bref, ok. Ça aussi, hein, voilà, ça aussi, ça doit parler à un certain électorat. Des gens avec qui on n'a pas envie d'être amis. Mais bon, il faut croire que ça existe. Proposition de loi visant à assumer à chacun. Attends, pardon, excusez-moi. Proposition de loi visant à faire assumer à chacun les conséquences de ses actes en permettant la saisie des amendes non payées sur les minima sociaux. Je préfère... Non, à ce niveau-là, je préfère en rire, mais... Ah ouais, oui, c'est le... D'accord. Les amendes non payées qui vont être prélevées automatiquement sur le RSA, sur... Ouais. Mais quel enfer. Enfin, je sais pas. Non, mais je veux pas. Encore une fois, je veux pas. Je suis désolé. Hein. Y a peut-être des gens de droite sincère dans le chat et je veux pas. Je veux pas être méchant ou quoi que ce soit. Mais bordel, quoi. Enfin, c'est. Vous vous souvenez, l'année dernière, ils avaient proposé de retirer les allocations familiales aux parents d'enfants qui sont absents au collège. Non mais enfin, c'est le même genre de truc quoi. On va s'en prendre à la mère de famille qui va faire les courses à Franprix, on va lui taper dessus. Enfin je sais pas, c'est... Excusez-moi, on parle de qui? LR, RN? On parle de LR. On parle de LR. À ne pas confondre avec RN. Parce que c'est pas la même chose. Même si, bon, voilà. disons que ça y ressemble quand même beaucoup, parfois. Pareil, je préfère en rire. Je connais cette théorie. Donc voilà, pardon, je continue la lecture du coup. Donc ça, c'était la proposition de loi faire payer les amendes sur les minima sociaux. OK? Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public. Non, pardon. Non, si, c'est ça. Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transport avec l'exercice du droit de grève. Ah, bah oui! Le service minimum, les jours de grève. Oh, j'ai l'impression que ça fait 20 ans, 30 ans que j'entends ça. C'est éternel ce truc, j'adore. Non mais pourquoi pas? La gauche aussi a son lot de trucs qu'on entend éternellement depuis toujours. Ah ouais, le service minimum, les jours de grève, bien sûr. Ouais. À chaque fois, c'est ça. J'en attends parler avant même ma naissance. Ouais, carrément. Carrément. 30 jours les préavis de grève dans les transports publics. Caducité automatique des préavis de grève non utilisés par au moins deux agents pendant une période de 48 heures. Ouais, bon, restriction du droit de grève, quoi, dans les transports publics, pour que la gauche arrête de porter atteinte aux honnêtes travailleurs qui ne font qu'aller bosser le matin. Voilà la liste, mesdames et messieurs, des propositions de loi qui sont défendues aujourd'hui à l'occasion de la niche parlementaire des Républicains. Attention, je viens de vous citer une liste, une longue liste de lois, de propositions de résolution, qui la plupart sont très courtes. On parle d'un article, deux articles, trois articles grand max. Ce sont des propositions de loi choc, ce sont des propositions de loi qui servent à réveiller l'opinion publique, à provoquer le débat, à forcer la controverse à l'Assemblée nationale. C'est pas parce que les Républicains proposent des lois qu'ils ont l'opportunité de les proposer au cours de la journée de leur niche parlementaire. Pourquoi? Parce qu'une niche parlementaire, ça dure une journée, pas plus. Ça veut dire que de 9h du matin à minuit le soir, les députés discutent de ces propositions de loi et de résolution. Mais ils n'ont pas jusqu'à après minuit. À minuit, ça s'arrête. Et si t'as pas réussi à faire passer des propositions de loi, c'est dommage pour toi. On n'ira pas après minuit. C'est pour ça qu'en général, dans les niches parlementaires, en général, tu as un texte, deux textes, trois textes qui sont soumis à discussion. Ça va, j'ai rarement vu des niches parlementaires qui vont au-delà de trois. Oh, si, c'est déjà arrivé. Si, sur des trucs très courts, des résolutions, des trucs comme ça, c'est déjà arrivé. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, la droite présente des projets de loi, des propositions de loi, pardon, en sachant très bien qu'ils vont réussir à en faire discuter que une ou deux ou trois. J'ai bien dit discuter, j'ai pas dit voter. Parce que je vous rappelle qu'une niche parlementaire, c'est pour les groupes minoritaires à l'Assemblée nationale. Qui dit groupe minoritaire dit groupe qui a peu de chances de réussir à faire adopter une loi. Alors, ça arrive quand même, hein. Ça arrive quand même, notamment des groupes parlementaires malins, qui savent très très bien qu'une niche parlementaire peut être l'occasion de parvenir à faire adopter des trucs si on les écrit suffisamment bien et qu'on fait en sorte de créer une majorité autour d'une idée simple, etc. C'est déjà arrivé. Je sais pas si les Républicains vont réussir à faire adopter des trucs aujourd'hui. Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. S'il y a des gens qui suivent la niche, vous pouvez nous me dire s'ils ont réussi à faire adopter des trucs. Quand bien même, c'est pas forcément toujours nécessaire de parvenir à faire adopter une loi. Ça peut, d'autant que les députés sont lucides, les députés savent qu'ils sont minoritaires, les députés se doutent bien qu'ils vont avoir du mal à trouver une majorité. C'est pas grave. Une niche parlementaire, ça permet aussi à un groupe de communiquer vis-à-vis du grand public, vis-à-vis de vous, de moi, le fait de parler de leurs propositions, comme je viens de le faire d'ailleurs, c'est en soi une forme de réussite pour un groupe, pour un parti politique, que d'inscrire à l'agenda médiatique, à l'agenda de la discussion, une proposition. Donc ça, déjà, ça peut être une forme de victoire. Ensuite, les propositions de loi et de résolution dans une niche parlementaire, ça peut aussi permettre de gêner aux entournures. L'opposition, enfin son opposition, les personnes avec qui on est en désaccord. Par exemple, aujourd'hui, non mais c'est intéressant, regardez aussi le calendrier, il est intéressant le calendrier. Nous avons aujourd'hui une niche parlementaire des Républicains. Très bien, les Républicains proposent des lois. Très bien. Demain matin, en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier, il y aura les motions de censure. Et qui est susceptible de voter une motion de censure demain matin? Les Républicains. Et qui n'a pas envie que les Républicains votent la motion de censure? Les Macronistes. Donc est-ce que vous pensez que les Macronistes aujourd'hui n'ont pas intérêt à amadouer un peu leurs alliés républicains? C'est peut-être pas le moment de s'engueuler avec eux. Bah oui. Et ça, les Républicains le savent très bien. Donc leur but, c'est aussi de réussir à faire voter les Macronistes. Ou, à défaut de les faire voter, de les faire se positionner de manière suffisamment subtile pour dire voilà, on n'est pas hostile aux républicains, on pense qu'on peut discuter en bonne intelligence, s'il vous plaît, pitié, votez pas la motion de censure demain. En gros, c'est ça. Et les républicains qui répondent, ah, vous voulez pas qu'on vote la motion de censure demain matin? Très bien, intéressant. Merci pour le raid, Charles. Très bien, intéressant. Dès lors, pourquoi ne votez-vous pas nos propositions de loi à l'occasion de notre niche parlementaire ? Voilà. Bienvenue dans les rapports de force parlementaire. Oui, ça joue. Oui, ça joue, ça fait partie des éléments qu'ont en tête les députés quand ils discutent. Ils savent tout ça, ils ont conscience de tout ça. Voilà. C'est trop politique tout ça. Ah, c'est très politique. Arrêtez de mettre de la politique dans ma politique. Hein. Donc voilà, je sais pas. Écoutez, la niche parlementaire est en cours. De ce que j'ai vu rapidement aujourd'hui, parce que j'ai jeté un œil ce matin pour checker un peu comment ça se passait, ça gueulait fort. Ça gueulait fort, notamment la gauche. Au moment où j'ai regardé, la gauche tapait sur la droite, évidemment, sur la résolution sur les frères musulmans comme organisation terroriste. Ça se battait beaucoup sur ce sujet-là, la question de l'islamophobie et tout. La gauche accusait la droite d'islamophobie. La droite répondait à la gauche que « Tiens, c'est bizarre, vous défendez les frères musulmans. Nous ne sommes pas dupes. » Voilà. Bon, bref, c'était un débat parlementaire, somme toute assez classique, mais il y avait des interruptions de séance, ça gueulait fort. J'ai vu Antoine Léaumont. Ouais, j'ai vu Antoine Léaumont. J'ai pas bien compris ce qu'il a dit, mais apparemment, il a été rappelé à l'ordre parce qu'il a dit au président de séance « Viens, descends. » C'est ça ? Vas-y, viens, descends. Je sais pas, j'ai pas bien compris. Mais je l'ai pas entendu. Ouais, bref. Non, bref, tout ça pour vous dire que la tension est montée. Voilà, la tension est montée dans l'hémicycle. J'ai entendu aussi, il y a une grosse prise de bec entre la droite et la gauche avec. C'est Laurent Jacobelli, député du Rassemblement National, qui accusait la gauche de défendre les frères musulmans, de défendre les islamistes, et qui disait et qui a fait le lien avec les homosexuels opprimés par les islamistes. Et il a fini son propos en disant « Si vous voulez que les homosexuels soient lapidés, vous n'avez qu'à voter LFI. » Vous imaginez que ça a fait réagir LFI ? Ça a fait une bronca, ça a gueulé, il y a eu des rappels au règlement de plusieurs responsables de gauche qui ont pris la parole pour dire que c'était abject, c'était intolérable de dire ça, machin, ouais. Bon. Non, mais c'est un débat parlementaire, hein. C'est un débat parlementaire. Ouais. Le RN, grand défenseur des homosexuels, comme chacun sait. Alors, bien sûr que non, d'une part. Et d'autre part, non, mais tu as raison. Il faut quand même dire que le Rassemblement national joue aussi sur une fibre qui s'appelle l'homonationalisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. L'homonationalisme, c'est une capacité qu'a l'extrême droite d'attirer certaines personnes homosexuelles avec l'argument de dire que ce qui pèse le plus sur les homosexuels en termes de menaces, c'est l'islamisme. Et que donc, les meilleurs protecteurs des homosexuels, c'est l'extrême droite. Vous adhérez pas, c'est votre problème, mais il y a des gens qui adhèrent à ça. C'est ça que je voulais dire. Donc l'homonationalisme, ça existe. Il y a des homosexuels, il y a même des organisations homosexuelles qui défendent l'extrême droite, qui sont proches du Rassemblement National autour de cette idée-là. De la même manière que vous avez des mouvements qui se revendiquent du féminisme, comme Némésis, qui revendiquent à peu près le même mécanisme vis-à-vis des femmes. La protection des femmes passe par la lutte contre les islamistes. Évidemment contre les musulmans. Donc, qui protège le mieux les femmes ? L'extrême droite. Voilà. Cet argumentaire-là, il existe aussi. Il fait des adeptes. Et voilà. C'est le même argument avec l'antisémitisme. Oui, absolument. C'est le même argument avec l'antisémitisme. On a déjà entendu ça dans les débats publics autour du conflit israélo-palestinien. L'idée de dire que la gauche s'acoquine avec les islamistes. Or, les islamistes sont les ennemis éternels du peuple juif, et que donc, si vous êtes juif, il faut se rapprocher de l'extrême droite, qui, elle, sera votre protectrice face à l'islam. Ouais, effectivement, on l'a déjà entendu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un argumentaire qui existe. Enfin, l'extrême droite s'en sert de ça, hein. Ils le savent très très bien que ça fonctionne aussi. Les gays votent maintenant à peu près comme les Français en général, donc forcément il y a un gros vote de droite et le RN chez eux. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la niche parlementaire des Républicains qui a lieu aujourd'hui? Pas grand-chose, si ce n'est que elle est l'occasion pour le groupe LR déjà de faire valoir sa cohésion, alors même que la question de la censure sur le budget divise le groupe. Quelle est aussi l'occasion pour les Républicains de nous faire voir leurs priorités, pour ne pas dire leurs obsessions, et qu'on y retrouve quand même des marqueurs très radicaux sur la question de l'insécurité, sur la question de l'immigration, sur la question. Enfin voilà, on retrouve, et c'est pas étonnant, on retrouve un rapprochement entre la droite et l'extrême droite sur des thématiques. Quand on voit que les Républicains proposent d'interdire le voile des enfants dans la rue, ça fait quand même vachement penser à ceux qui veulent interdire le voile tout court dans la rue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est sur une nuance un peu ridicule de « Ah non, nous, c'est que les gosses. Hein. » Oui, non, mais ça va, les gars. Enfin, Wow. J'ai reçu le papier de Rachida Dati pour les municipales et la thématique était claire pour une ville plus sûre. Ah bah oui. Oui, non mais c'est vrai. Enfin, oui, bien sûr. Les candidats LR aux élections municipales font de la question de la sécurité et de la tranquillité publique un axe majeur de leur programme. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est la droite. Hein. Faut pas faire semblant de découvrir le loup du jour au lendemain. Ils ont toujours fait ça. C'est un axe important pour eux. Leurs électeurs veulent ça. Donc, ça se retrouve dans leur programme. C'est normal. C'est quand le prochain Baxit? Ce sera le 29. Est-ce que c'est constitutionnel la présomption de légitime défense des forces de l'ordre que défend Nunez? Probablement pas, mais je ne suis pas juge constitutionnel, donc j'adopte des précautions langagières, mais c'est probablement pas légitime, probablement pas constitutionnel. En même temps, tu peux difficilement dire que tu es contre la sécurité ou pour l'insécurité, donc ça passe bien. Non, mais oui, personne n'est pour l'insécurité. Ça n'existe pas. Non, évidemment, bien sûr. Mais il y a bien sûr des nuances dans la manière d'aborder la question. Là où la droite veut des policiers municipaux armés qui ont beaucoup de pouvoir. De l'autre côté du spectre politique, tu as la France Insoumise qui propose de retirer les caméras de surveillance dans l'espace public. Tu m'accorderas qu'il y a un gap entre les deux. Bon, bah très bien, ça s'appelle un clivage gauche-droite, hein, c'est... Oui. C'est si fort que ça comme acte s'il y a une forte probabilité de non constitutionnel. En fait, une proposition de loi dans une niche parlementaire a très peu de chances de devenir une loi. Ça aussi, il faut être lucide là-dessus. Et les députés le sont, lucides. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu as réussi à faire voter un truc un jour dans ta niche parlementaire que tu vas réussir à faire adopter le truc au Sénat. Déjà, il faut que ce soit inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Donc, faut qu'il y ait des sénateurs qui acceptent de l'inscrire à l'ordre du jour. Ça se trouve, tout le monde s'en branle de ton truc. Ensuite, une fois que c'est passé par le Sénat, que le Sénat l'ait voté ou pas voté, à la limite, peu importe, ça revient à l'Assemblée nationale. Il faut le réinscrire à l'ordre du jour, le bordel. Donc, il faut trouver soit un gouvernement, soit une majorité de députés, soit une nouvelle niche parlementaire pour réinscrire le texte à l'ordre du jour. Enfin, vous voyez un peu les étapes qui font que, bon, c'est pour ça que une niche parlementaire. C'est un moment politique, au sens très fort du terme. Ça permet à un groupe minoritaire de poser des actes sur la table, de mettre en avant des priorités, des choses que ces gens-là jugent essentielles pour des raisons qui les regardent. Le but des Républicains aujourd'hui n'est pas tant de réussir à écrire une nouvelle loi qui va entrer en vigueur dès l'année prochaine. Non, ils le savent très bien que ça n'arrivera pas. C'est pas grave, ils sont là pour marquer des points dans le débat public et dans le débat parlementaire en particulier. Ils sont là pour forcer les autres groupes à se positionner. Et ça, c'est déjà une victoire en soi. T'es obligé de voter, t'es obligé d'amender, t'es obligé de discuter, de prendre la parole, de machin et tout. Ça fait partie aussi de l'utilité d'une niche parlementaire. Et voilà. Et enfin, les Républicains, malheureusement, comme d'autres députés, c'est pas les seuls, en ont pas grand-chose à foutre de faire voter ou pas des trucs constitutionnels. En fait, ils s'en cognent un peu parce qu'ils savent très bien qu'il y aura le Conseil constitutionnel à la fin qui fera le tri si jamais. Donc, ils assument, en off, sans l'admettre publiquement, ils assument de faire voter des trucs en sachant très bien que ça ne rentrera jamais en application, mais parce que ça permet de marquer des points politiques, dans le débat parlementaire et dans l'opinion publique. Voilà. Il faut être là aussi honnête. Non, les Républicains sont pas les seuls à jouer à ce petit jeu-là. Hein, voilà, c'est déjà arrivé à gauche, c'est déjà arrivé au centre, c'est arrivé un peu partout que des députés fassent voter des trucs en sachant pertinemment que voilà. Mais c'est pas grave, ça nous permet de marquer des points et de faire des tweets qui claquent pour annoncer aux gens cocorico, on a fait voter ce truc-là. Voilà. Oui, ça s'appelle la démagogie. Oui, ça existe. Oui, ça fait partie de la démocratie. Bon. Le fait de proposer des lois anticonstitutionnelles, c'est un choix ou plus le résultat d'avoir la vérification de la constitutionnalité à la fin du processus. Alors, c'est intéressant la question que tu poses parce que effectivement, on peut se poser la question de savoir si ce petit jeu dangereux auquel jouent les députés n'est pas rendu possible par l'existence même d'un Conseil constitutionnel. Bah oui. C'est parce que les députés se savent, j'ai envie de dire protégés par le Conseil constit, qui joue le gardien in fine de la Constitution. Qu'ils se permettent de faire des dingueries, en se disant au pire ça passe pas. On n'a rien perdu. Ce qui est une mauvaise nouvelle quand même, hein. Ce qui est quand même une mauvaise nouvelle dans un état de droit et une démocratie, qu'un parlement vote en conscience des trucs anticonstitutionnels, c'est un problème. C'est pas parce que tu as une étape de vérification après que tu dois te permettre de voter des trucs anticonstitutionnels. C'est intolérable. pas possible. Donc, bon. C'est pas parce que les impôts vérifient que tu dois frauder. Oui, c'est une manière de le dire, je suis d'accord. Merci, slogan. Mais c'est intéressant parce que l'existence même d'un contrôle de constitutionnalité des lois ne va pas de soi. Vous et moi, on est nés avec un conseil constitutionnel qui existe. Qui est là, il fait partie du paysage, et personne n'en discute vraiment. Mais en 1958, quand la constitution de la Ve République est entrée en vigueur, quand elle a été écrite, il y a eu des débats, à l'époque, entre constitutionnalistes, sur l'existence de ce machin nouveau, qui n'a jamais existé en France, une instance non élue qui va juger les lois votées par un Parlement élu. Je vous mens pas, il y en avait à l'époque, ils n'étaient pas chauds. Il y en avait à l'époque qui disaient attends, c'est un peu bizarre cette histoire quand même, c'est pas fou. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un monstre? Qu'est-ce que c'est que ce Parlement sous contrôle? Qu'est-ce qui peut s'opposer à la volonté du peuple souverain exprimée par un Parlement? Enfin, c'est... Voilà, c'est dans une culture démocratique, parlementaire, etc., c'était pas évident. Bon, le Conseil constitutionnel a une histoire qui est longue comme la Ve République, il y a des bouquins entiers qui ont été écrits dessus, il y a des colloques qui ont été organisés dessus, pour parler de cette histoire et pour parler de comment le Conseil constitutionnel a fini, bon gré mal gré, par s'imposer dans le paysage politique et institutionnel comme une force de stabilité, de responsabilité, d'utilité. Ce n'est plus remis en question aujourd'hui, le Conseil constitutionnel. C'est même plutôt bien vu par tout le monde que ça existe, moi le premier, parce que avec le temps et avec les jurisprudences des années 70 sur la protection des droits fondamentaux, on s'est rendu compte que, mine de rien, c'était pas inutile d'avoir une instance qui protège les libertés et tout, donc c'est pas mal. Bref. Mais avant, ça n'existait pas. Une des raisons pour lesquelles on a inventé le Conseil constitutionnel, c'est pour que ne se produise plus en France ce qui s'est produit à l'époque de la Troisième République, voire de la Quatrième, et surtout de la Troisième République. Le vote des pleins pouvoirs à Philippe Pétain, en juin 1940, juin ou juillet, je ne sais jamais, le vote des pleins pouvoirs à Philippe Pétain, ben je suis désolé, mais ils n'avaient pas le pouvoir de le faire, les députés. C'était écrit nulle part, cette histoire de vote des pleins pouvoirs. C'était pas prévu par les lois constitutionnelles de la Troisième République. Il y avait écrit nulle part que les députés avaient le droit de se départir de leur propre pouvoir et de le filer à quelqu'un d'autre. En fait, non. C'était pas constitutionnel. Mais comme il n'y avait pas de contrôle de constitutionnalité à l'époque, en fait, on faisait confiance à l'Assemblée nationale pour respecter la Constitution. Vous voyez le problème ? Donc c'est un exemple que je vous donne, mais c'est un exemple intéressant de... Voilà pourquoi on a créé un contrôle de constitutionnalité aussi. Parce que non, une Assemblée nationale n'est pas à même d'être le meilleur garant du respect de la Constitution. C'est pas vrai. C'est pas vraiment les pleins pouvoirs qui lui ont été votés. Tu as raison, ce n'était pas un vote de plein pouvoir, c'était un vote de délégation du pouvoir de rédiger une nouvelle constitution qui a été votée en faveur de Philippe Pétain. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pourquoi je parlais de ça ? Ah oui, parce qu'on était en train de discuter du fait que des députés proposent et votent des lois en sachant pertinemment qu'elles ne passeront pas les fourches codines des sages de la rue de Montpensier. Et que c'est un problème. Enfin, moi, je considère que c'est un problème. Pour le coup, je suis d'accord avec Richard Ferrand, et il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, hein, qui disent que, en fait, c'est pas normal, que c'est une dérive dangereuse pour notre démocratie, que des députés s'autorisent à voter des trucs anticonstitutionnels en le sachant très bien, quoi. Certaines personnes remettent en cause le Conseil constitutionnel, RN, UDR, LR, gouvernement des juges. Non, ils critiquent. Mais ils ne remettent pas en cause le fait qu'il existe un contrôle de constitutionnalité. Mais il y en a d'autres. Hein. Je sais pas pourquoi tu as omis la gauche dans ton message. La gauche aussi se montre très critique, quand elle le veut, de la rue de Montpensier et des membres du Conseil constitutionnel et de leurs décisions. Bah, c'est normal, elle est souvent déboutée quand elle les saisit. Et même la conventionnalité au regard des traités européens. Aussi, oui. Oui, tu as raison. On l'oublie toujours, mais oui. J'arrive pas à me faire à l'idée que c'est Richard Ferrand qui gère le Conseil constitutionnel en ce moment. Il le gère pas, il le préside. Il est pas tout seul, mais oui. Le mode d'élection au Conseil constitutionnel peut être discutable. Le mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel sont peut-être à discuter et à rediscuter. On peut en rediscuter. Pourquoi pas? Bien sûr. Mais j'attire quand même votre attention sur le fait que même quand les juges ne sont pas nommés, on trouve quand même moyen de les critiquer. N'est-ce pas, Marine Le Pen? Comment ça va d'ailleurs ton procès? Ça se passe bien? Voilà, donc en fait. On trouvera toujours moyen de critiquer des juridictions ou des conseils qui prennent des décisions avec lesquelles on n'est pas d'accord politiquement. Enlever le droit du sol à Mayotte, pourquoi ça n'a pas été bloqué par le Conseil constitutionnel? J'en sais rien. J'en sais rien. Les gars, vous savez qu'il existe des laboratoires de recherche en droit qui passent leur journée à faire l'exégèse des décisions du Conseil constitutionnel. Il y a des publications scientifiques, il y a des colloques, il y a des gens dont c'est le métier. Je l'ai fait à une époque, j'ai plus jamais envie de le refaire. Tout ça est passionnant, mais en fait, j'en sais rien. Je suis incapable de vous faire une critique, là, comme ça, d'une décision du Conseil constitutionnel. Faut refaire l'histoire du droit du sol et du droit du sang. Faut aller chercher dans les conventions internationales, dans la Constitution, dans les principes fondamentaux du droit. Oula, oula, oula. Je sais pas, j'en sais rien. Il n'y avait pas un problème avec les comptes de campagne de Chirac? De Balladur, oh t'es méchant, t'es méchant. Oh t'es méchant de faire porter à Chirac le chapeau des conneries de Balladur. Non, ça c'est pas sport, ça. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Non, 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 non. Oui, c'est en 1995, au cours de la campagne présidentielle, c'était Roland Dumas à l'époque qui présidait le Conseil constitutionnel. Et de ce que j'ai compris, les comptes de campagne de Balladur étaient manifestement pas réglo. Et le Conseil constitutionnel de l'époque, plutôt que de déclarer l'irrégularité des comptes et annuler l'élection présidentielle, a préféré tripatouiller les comptes pour que ça rentre dans les cases et qu'on n'en parle plus. Et c'est un scandale. C'est un scandale absolu. Alors depuis, il y a la CNCCFP, etc. On a des éléments qui permettent de faire en sorte d'éviter que ça se reproduise. Mais... Fallait des grosses cases. Ouais, il fallait des grosses cases. Non, non, c'est pas toujours glorieux, hein, là. C'est pas toujours glorieux, l'histoire du droit constitutionnel, hein. Pourquoi la proposition de loi est considérée comme mauvaise? Quelle proposition de loi? De quoi tu parles? De Yadan? Je sais pas, j'ai pas regardé. La proposition de loi Yadan qui a été adoptée en commission, je crois, elle n'est pas encore discutée dans l'hémicycle. C'est une proposition de loi de mémoire qui cherche à lutter contre l'antisémitisme. Elle est contestée à gauche. Mais je t'avoue que j'ai pas suivi, donc je ne saurais pas vraiment te dire. Ça donne quoi d'ailleurs le procès Le Pen? Ça dure combien de temps? Le procès Le Pen va durer jusqu'à mi-février, 13 février. Le verdict sera rendu l'été prochain. Voilà. Et ça donne quoi? Écoute, y a plein d'articles de journaux qui racontent un petit peu ce qui se dit à l'intérieur. La défense qui est choisie par le Rassemblement national. Dans ce procès, c'est de. En fait, le RN ne nie pas les faits. Le RN ne nie pas les faits, mais il en conteste le caractère volontaire et lucide. En gros, le RN dit, ce qui n'est pas nécessairement un mauvais argument en justice, mais qui est de dire, on n'avait pas conscience de commettre un délit, on a fait ça de bonne foi. On n'est pas et les autres font pareil, c'est une pratique qui est courante. Fin de citation. Après, c'est à discuter. Je ne suis pas magistrat. Tout ça va faire l'objet d'un procès. C'est justement pour ça qu'on le fait. Mais voilà quel est l'angle de défense du Rassemblement national. Ce qui a été dit par le juge de première instance a été trop dur concernant Marine. Bah, c'est l'argument de Marine Le Pen de dire c'est son droit, c'est son droit à Marine Le Pen de dire à un juge d'appel, écoutez, ce qu'a dit le juge de première instance est caricatural par rapport à la réalité. En première instance, on a dressé de moi le portrait d'une personne machiavélique à la tête d'un système organisé, quasi mafieux, volontaire, pour détourner un max de fric ou je sais pas quoi. La réalité, c'est que c'était des pratiques courantes. La réalité, c'est qu'on savait pas que c'était interdit de le faire. La réalité, c'est qu'on l'a fait de bonne foi, machin. Donc non, voilà. Donc elle est dans son rôle de justiciable qui se défend. Et puis en face, t'as un procureur qui dit vous racontez n'importe quoi. Regardez, j'ai des preuves. Hop, vous avez bel et bien mis en place un système de détournement de fonds publics. Voilà. Bon, bah, ça... ainsi va le procès. Elle a globalement l'air de vouloir sortir de l'interdiction pour les élections et pas de la condamnation. Bah, disons que Marine Le Pen est quand même lucide sur le fait qu'elle va probablement être condamnée. Elle est avocate de métier, elle le sait que là, bon, voilà, les éléments matériels, ils sont présents. L'infraction est caractérisée. Bon, voilà. Elle essaye de contester la gravité de l'infraction, elle essaye de contester ça pour effectivement, tu as raison, amadouer le juge de manière à ne pas être condamné à une peine d'inéligibilité. C'est ça le plus important pour elle, c'est l'inéligibilité. Si elle est avocate, comment avoir été aussi nulle dans son premier procès? Ah, mais attention, c'est pas parce que vous êtes condamné que vous êtes un mauvais avocat, hein. Il y a un certain nombre de gens qui ont été condamnés à mort, ils avaient les meilleurs avocats de la planète, hein. Eh oui, malheureusement, la justice, c'est pas un concours de plaidoirie entre avocats, hein. C'est non, non, c'est plus compliqué que ça. Non, mais elle niait tout. Bah, c'était une autre stratégie de défense. C'était une autre stratégie de défense. D'être dans une confrontation totale avec l'instruction, avec les éléments d'enquête, etc. Ça peut marcher. C'est pas, ça a pas marché en première instance, mais ça peut fonctionner, quoi. Après, le juge lui a répondu qu'en tant qu'avocate, elle ne pouvait pas ignorer que c'était illégal. Oui, tu as raison. Non, 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 mais c'est vrai, l'avocat a probablement eu raison de répondre ça. Je sais pas, je vous avoue que j'ai pas regardé dans le détail ce qu'a dit Marine Le Pen au cours de son premier procès, mais peut-être qu'elle a aussi eu une défense qui était celle de Nicolas Sarkozy, je me souviens à l'époque, était de dire, attendez, vous rendez bien, enfin, vous comprenez bien, monsieur le juge, que c'était pas moi qui m'en occupais de ces affaires-là. Là, vous me parlez de trucs techniques, les contrats de travail, des estants parlementaires, qu'est-ce que je. Moi, je suis président de parti, j'ai autre chose à gérer, j'ai autre chose à faire. C'était la défense Big Malion, ça. Mais enfin, monsieur le juge, j'étais président de la République. Vous voyez vraiment que je m'occupais de savoir les factures des meetings de ma campagne? Bon, ça peut marcher. Ça n'a pas marché. Mais ça peut marcher. Ses avocats n'avaient pas vu que la peine d'inéligibilité était applicable à son dossier. Non. Non, 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 c'est pas vrai, ça. Non, non, on le savait, même nous, on le savait. Même nous, pauvres moutons égarés sur Internet, on avait des articles qui parlaient du risque d'inéligibilité de Marine Le Pen. Oh. Oh, si vraiment, elle a des avocats de merde, hein, c'est les mecs qui sont pas capables. Oh. Si, ils l'ont appris dans la salle d'audience. Quoi? Non, c'est vrai cette histoire? Genre, les avocats de Marine Le Pen, ils ont découvert à l'audience qu'elle risquait une peine d'inéligibilité? Ah ouais, non, c'est chaud là. Non, c'est dur là. Non, 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 les gars, les gars, les gars. Là, vous faites honte à la profession, s'il vous plaît. C'est plus une question de droite ou de gauche là. C'est non, 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 non. Oui, à cause de la date d'application de la loi Sapin 2. Attends, tu me rappelles un truc. Tu me rappelles un truc. Effectivement, j'ai le vague souvenir, on en avait parlé, du fait qu'il y avait un débat juridique pour savoir si les faits commis par Marine Le Pen et susceptibles d'être condamnés avaient été commis dans des dates qui étaient couvertes par l'application de la loi Sapin 2. Et qui donc entraînait la possibilité pour Marine Le Pen. D'être inéligible. Oui, donc c'est ça. Non, 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 mais d'accord, c'est ça. Oui, ok, je crois que je me souviens. Arrêtez-moi si je dis une connerie, mais je crois que je me souviens. Je crois que je me souviens c'était pas que les avocats de Marine Le Pen ne le savaient pas ou qu'ils l'ont découvert, je sais pas quoi. C'est juste qu'il y avait un débat juridique pour savoir si. La loi pouvait s'appliquer à elle, compte tenu d'une histoire de date, un sujet pas seulement procédural, c'est important, mais bref. Ouais, ok. Non, la loi Sapin 2 rendant l'inéligibilité automatique, ce qu'elle n'a pas subi Marine Le Pen de mémoire. Ah putain, t'as raison. Oui, c'est heureusement que vous êtes là, parce que vous êtes en train de reconstituer ma mémoire avec mon Alzheimer, là. Vous êtes en train de reconstituer ma mémoire, parce qu'effectivement, la loi Sapin 2, c'est l'automaticité de l'inéligibilité, en tout cas de l'exécution provisoire, ou l'un des deux. Mais bref, peu importe. C'était juste l'automaticité. Mais qu'on applique ou pas la loi Sapin 2, Marine Le Pen risquait quand même d'être déclarée inéligible. Il fallait juste que ce soit motivé par le juge. Putain, les points de droit. Oh, les points de droit. Oh, ça va, les avocats dans le chat? C'est une loi votée par le RN pour rappel. Bon, au point où on en est. Est-ce qu'on a le droit de garder le silence? Dans le chat, non, c'est interdit. Mais partout ailleurs, oui. Et si, alors, si un jour, je vous le souhaite pas, mais si un jour vous vous retrouvez en justice devant un juge avec votre avocat assis à côté de vous, si le président du tribunal vous dit, monsieur, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Attention, c'est un piège. Vous devez fermer votre grande gueule. Normalement, votre avocat, si c'est un bon avocat, il va vous tirer sur le pull comme ça discrètement. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Parce que la probabilité de chance que vous disiez un truc incriminant est phénoménale. Vous allez pas vous. Non, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, tu vas dire une connerie. Tu vas dire une connerie, tu vas t'incriminer, tu vas. Ah, tais-toi. Le génie écrit liberté comme dans Braveheart. Donc voilà. Donc sachez-le, sachez-le, c'est un piège. Est-ce que tu as des exemples? Bah, il y avait. Oui, il y avait, bah, on en parlait la dernière fois de ce documentaire qui s'appelle Dixième Chambre, qui montre le fonctionnement de la justice. Et il y a une prévenue à un moment, une femme qui est une femme qui a commis une infraction routière, je crois, ou je sais pas quoi, bref. Et en gros, la dame, elle est pas rebelle, mais en tout cas, elle dit qu'elle comprend pas très bien ce qu'elle fait là, parce qu'elle voit pas ce qu'elle a fait de mal, parce que machin, bref. Et en gros, la présidente du tribunal passe un petit moment à expliquer à la dame où est-ce qu'elle est déjà dans un tribunal, ce qu'elle a commis, voilà, et pourquoi c'est grave. Enfin, en tout cas, pourquoi elle est là, quoi, pourquoi elle a, voilà. Et donc la dame se fait un peu engueuler par la présidente du tribunal, qui prend bien soin de demander à la dame, est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit? Est-ce que vous saisissez l'importance du sujet, est-ce que vous comprenez que vous avez fait une bêtise et que c'est pas bien, etc. Et la dame dit oui. En gros, elle reconnaît qu'elle a commis un délit et que c'est pas bien, et machin. Ok, voilà. Et la dame et la présidente lui dit, madame, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Et là, la femme, elle dit non. Enfin, je trouve quand même que les policiers, ils feraient mieux de passer leur temps à arrêter les vrais délinquants dans les banlieues, alors que moi, j'ai rien fait. En tout cas, j'ai rien fait de mal. Je comprends pas pourquoi je suis là. Enfin, bref, elle repart dans un truc. Là, vraiment. Ferme ta gueule. Tais-toi. Tais-toi. Et tu le vois sur le visage de la présidente que. Oui, bon, ok. Elle a rien compris. Elle a pas compris. Je ne contracte pas. L'avocat qui devait être tellement gêné. J'avoue que je ne sais plus s'il y avait un avocat dans ce. Enfin, c'est un documentaire de Raymond Depardon que je vous invite à regarder. Mais Mais je sais plus s'il y avait un avocat ou. Correctionnel, mon amour. Ouais, les correctionnels, ouais. Est-ce que ça a augmenté son amende ou sa peine? C'était la question à la base. Bah, l'un des boulots du juge, s'il y avait un avocat et c'est même devenu un mème car il a facepalm à ce moment-là. Ah ouais? Je me souviens pas. Faut que je le re-regarde. Mais c'était, ah putain, faut que je le re-regarde. Non, enfin, l'un des boulots du juge, c'est de s'assurer que les justiciables ont compris les faits qui leur sont reprochés, ont compris l'importance, voire la gravité de ce qu'ils ont fait, et ont compris pourquoi ils reçoivent une peine dans un tribunal, etc. Voilà, ça fait partie du boulot de la justice, et c'est important que la justice fasse attention à veiller à ce que les gens ont bien compris. Si la dame... Si la dame, après lui avoir expliqué, elle continue à raconter qu'elle a en fait pas compris, qu'elle voit pas ce qu'elle fait là, parce qu'en fait elle a rien fait de mal, parce que voilà, machin et tout. Bon bah oui, il y a moyen qu'elle se prenne une amende plus lourde, une peine plus lourde. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible que la justice considère que le prévenu n'a pas montré des signes de rédemption. C'est un peu ça pour Marine Le Pen. Non, parce qu'attention, attention, attention, ce que je suis en train de vous dire ne veut pas dire que lorsque vous allez au tribunal, vous devez faire œuvre de rédemption, d'amende honorable, vous contorsionner de douleur pour vous excuser, machin. Non, vous avez le droit de contester aussi juridiquement ce qui vous est reproché. Heureusement. Et la justice fait aussi son travail en vous écoutant avec vos arguments ou ceux de votre avocat. Pour dire qu'en fait vous contestez formellement les faits, que vous contestez leur qualification juridique, que vous contestez, voilà, vous avez le droit. Mais c'est pas la même chose. Là, dans l'exemple que je vous donnais, la dame, elle a pas contesté, elle a juste montré qu'elle avait rien compris à... Donc voilà. Contrition. Ouais, c'est ça, contrition. Je cherchais le mot, contrition. C'est ce soir le prochain Baxit ou c'est la semaine prochaine? C'est la semaine prochaine, c'est le 29 que nous reprenons l'émission Baxit. On va parler du budget, à mon avis, en grande partie, mais bon, je dis ça en fait, j'en sais rien, je sais pas pourquoi je m'avance. On n'a pas encore fait de. On n'a pas encore fait de réunion de rédac. On fera ça la semaine prochaine. Pardon, excusez-moi, excusez-moi, je voulais vous montrer un truc. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à vous faire. Enfin, j'ai une annonce, j'ai une émission à vous annoncer. Voilà, elle est là. Hop, ça s'ouvre là. Boum. Merde. Hop, voilà, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour de l'émission Checkpoint. L'émission Checkpoint que je réalise en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale. On a déjà eu l'occasion de faire plusieurs émissions au cours de l'année passée avec la Fondation pour la recherche médicale. Comme vous le savez, dans chaque émission de Checkpoint, on fait un focus sur une maladie ou un domaine de recherche en santé. Et le 27, donc c'est-à-dire mercredi prochain, mardi prochain, on fait une émission spéciale sur l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Je vous avoue que j'y connais rien à l'AVC. Je ne sais pas très bien qui ça concerne, comment ça fonctionne, ce qui se passe et tout machin. Donc, on va tous en apprendre beaucoup plus grâce à cette émission. Je serai en plateau, comme d'habitude, avec des chercheurs et des chercheuses qui vont nous accompagner, vous et moi, dans la compréhension de cette maladie et surtout dans les progrès de la médecine et de la recherche sur la maladie. Voilà, c'est ça l'émission Checkpoint. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, l'émission Checkpoint est une émission qu'on a créée ensemble avec la Fondation pour la recherche médicale. On a déjà fait plusieurs épisodes que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la FRM. On a parlé de plein de sujets différents, à chaque fois avec des chercheurs et des chercheuses. C'est cool parce que c'est aussi l'occasion d'interviewer des chercheurs et des chercheuses qui nous racontent leur métier. Ça, c'est cool. On apprend plein de trucs. Tout ça est diffusé sur ma chaîne, sur Twitch, ici. Je peux pas regarder ce genre d'émission, ça me rend trop hypocondriaque après. Non, alors oui, comme vous voulez, mais c'est pas le magazine de la santé. Voilà, je cherchais dans ma tête. C'est pas le magazine de la santé. C'est pas une émission pratico-pratique pour parler de la santé au quotidien. C'est une émission qui fait le point sur la recherche médicale. En tout cas, c'est l'angle éditorial qu'on a, c'est de faire le point sur la recherche. Donc, c'est la découverte et de la compréhension pour un public néophyte comme moi de ce que c'est que cette maladie, de comment elle fonctionne, machin. Mais c'est aussi l'occasion de parler de recherche en santé. Voilà, c'est pour ça qu'on fait cette émission. Bon, si on peut faire un peu de prévention, on le fait avec grand plaisir, mais voilà. Et il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que c'était cette émission qui avait fait un focus sur l'endométriose? Ouais, on a fait une émission spéciale endométriose. Ah bah merci Dart. Dart qui nous a mis la playlist de la FRM. Putain, on en a fait plein! Non, ils ont été découpés. Non, ils ont été découpés. On a fait une émission sur la santé mentale. On a fait Alzheimer. On a fait quoi d'autre? Le cancer, ouais. On a fait le cancer. On a fait santé environnement. Et on a fait endométriose qui doit être quelque part. Il est où endométriose? Il est où endométriose? Je sais pas, je l'ai pas vu. Bref, n'hésitez pas à reprendre et à revisionner cette émission si vous le souhaitez. Tchoum, 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 tchoum. Et voilà, donc tout ça pour vous dire, rendez-vous la semaine prochaine sur ma chaîne pour l'émission Checkpoint. C'est le 27 à 16h, tout à fait, tout à fait. Je vous publierai évidemment la prog de la semaine sur Blue Sky et sur Insta, comme chaque semaine. Covid long et recherche participative SVP Checkpoint, trop bien, je vais regarder. Ouais, oui, t'as raison, ça pourrait être intéressant de revenir sur le Covid. J'en parlerai à la FRM, on décidera ça ensemble. Après, on travaille aussi en fonction des pôles des priorités de la Fondation pour la recherche médicale, qui a des chantiers de financement de recherche en santé. Sur certains types de pathologies. Donc, en général, on suit un peu ces typologies de pathologies, mais ça ne nous empêche pas de faire des trucs un peu différents, quoi. Est-ce que les budgets du pass culture seront mis en cause en ce moment avec les motions et le 49-3? Merci, Hermine. J'en sais rien. Non, c'est pas que j'en sais rien, c'est que il y a une loi spéciale qui a été votée en décembre dernier qui permet à l'État de continuer à percevoir les impôts. Le gouvernement, de son côté, peut prendre par décret des crédits dans la limite des services votés de l'année dernière. Bref, je rentre pas dans le détail, ce qui fait qu'a priori, il n'y a pas de raison que le pass culture soit en danger particulièrement avec le 49.3. Voilà. Si le budget est adopté demain matin, en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier, suite au rejet des motions de censure, alors le Pass Culture aura les crédits qui lui sont alloués par le budget. Je t'avoue que je n'ai pas regardé dans le détail, je ne sais pas si ça augmente ou si ça descend, je ne sais pas. Il faudrait un pass Twitch. Il faudrait un pass Twitch. Alors, le pass Twitch existe. Il s'agit d'une carte à puce, qu'on appelle une carte de crédit, que les Français ont dans leur portefeuille et qui leur permet de s'abonner à la chaîne Twitch de Jean Massier. Ça marche très bien. C'est un dispositif de soutien à la création sur Twitch. Voilà. Il y a aussi le pass Twitch via Amazon. Oui, il y a aussi le pass Twitch via Amazon. Lorsque vous êtes, on appelle ça un citoyen Golden Plus. Lorsque vous êtes un citoyen Golden Plus, vous avez un abonnement Amazon Prime. Et lorsque vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à la chaîne Twitch de Jean Massier chaque mois. Ça aussi, c'est un dispositif mis en place par le président de la République, Jeff Bezos. Sauf que les crédits pour alimenter cette fameuse carte à puce ne sont pas forcément reconduits cette année. Oui, effectivement. Oui. Alors ça, bon, il y a des mécanismes qui ont été mis en place, l'éducation nationale, la formation professionnelle, pour vous permettre d'avoir un métier qui vous permet de percevoir chaque mois une somme d'argent sur votre compte en banque, qu'on appelle un salaire. Et c'est sur ce salaire que doit être pris le montant nécessaire à l'abonnement à la chaîne Twitch de Jean Massier. Voilà, c'est ça le mécanisme. C'est un peu compliqué. Merci Mascarpone. C'est un peu compliqué. Est-ce que ça compte dans le PIB tout ça, c'est déclaré? C'est vrai ça. Est-ce que je suis compté dans le... Est-ce que je fais partie de l'activité économique du pays? Bah oui, techniquement oui. Putain, je l'enrichis, hein. Eh, je l'enrichis le pays, hein. Il faudrait le prélever directement sur les minima sociaux. Le truc glauque. Est-ce que c'est vrai que les députés eux-mêmes ne savent pas encore ce qu'il y a dans la partie dépenses du budget? Alors, non, ils peuvent le savoir puisque les textes sont examinés par la commission des finances. À l'heure actuelle, le gouvernement n'a engagé le 49.3 que sur la partie recette du budget parce que c'est la procédure qui veut ça. Une fois que la partie recette du budget aura été passée demain matin a priori, le gouvernement engagera un 49.3 sur la partie dépenses du budget. Puis le budget passera au Sénat, puis il reviendra à l'Assemblée où il faudra à nouveau avoir recours au 49.3. En fait, le 49.3 est un mécanisme qui ne permet pas de faire passer une loi. Non, le 49.3 permet de faire adopter une loi par l'Assemblée nationale, à une étape. Mais il faut l'utiliser autant que nécessaire lorsque le texte revient devant l'Assemblée nationale. S'il y a des allers-retours avec le Sénat, tu réengages la responsabilité du gouvernement à chaque fois que tu passes devant le Sénat. C'est pour ça qu'il y a un peu une arnaque attention, il y a un peu une arnaque intellectuelle, qui consiste à compter le nombre d'occurrences du 49.3 pour faire gonfler la somme de 49.3 et pour dire « Ah là là, le gouvernement a utilisé 27 fois le 49.3, etc. » C'est pas tout à fait une arnaque, parce que c'est pas faux factuellement, mais c'est juste que vous comptez le nombre d'allers-retours du texte, alors qu'en fait, il vaut mieux compter le nombre de fois que le 49.3 est utilisé par texte. Et là, évidemment, le socle et le nombre est beaucoup plus bas. Vous avez compris ce que je voulais dire ou pas? Parce que j'ai l'impression de m'être embrouillé moi-même l'esprit. Des fois, je suis pas clair. Hein. Des fois, je suis pas clair. Faut me le dire. Hein. Faut me le dire. Le nombre de textes sur lequel il a été utilisé plus tôt. Ouais, c'est ce que j'ai voulu dire. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est ce que j'ai voulu dire. Tu m'as embrouillé alors que je croyais avoir compris. Oui, bon, vous avez compris, vous avez compris. Non, non, mais vous avez compris. Mais je parle à des gens intelligents. Ouais, non, non, vous avez compris, vous avez compris. Non, non, c'est bon. Enfin bref, bon. Gardez simplement en tête que quand vous entendez quelqu'un dire « Ouais, le gouvernement a utilisé what mille fois le 49.3 », souvent, il y a un petit trick. Il y a un petit trick dans le truc. En France, il peut y avoir jusqu'à combien d'allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat? Comment te dire? Virtuellement, ça peut être infini. Ce qui n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'à partir... Enfin, si c'est infini, c'est définitivement... Bref. La procédure ordinaire d'examen d'une loi prévoit deux lectures par chambre. Assemblée nationale, Sénat. Assemblée nationale, Sénat. Et si au bout de deux lectures par chambre, les deux chambres ne se sont toujours pas mises d'accord sur une même version du texte, alors le gouvernement a la possibilité de convoquer ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, qui est une réunion qui vise à essayer, une bonne fois pour toutes, de se mettre d'accord. Puis, à l'issue de la commission mixte paritaire, bon, bah, si elle est conclusive, les deux chambres votent une dernière fois, mais a priori, elles sont d'accord, donc c'est bon, c'est voté, terminé, merci, au revoir. Et si elles ne sont pas d'accord, le gouvernement a la possibilité de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Ça ne veut pas dire que le gouvernement a aussi la possibilité de le donner au Sénat s'il le souhaite. Non, 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 que à l'Assemblée nationale. Mais il faut que le gouvernement le souhaite. De mémoire. Donc voilà, donc c'est ça la procédure. La procédure, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale n'a le dernier mot que si vraiment ça coince avec le Sénat. C'est pour ça qu'on dit qu'en France, l'Assemblée nationale a le dernier mot lors de la navette parlementaire. Exactement. Mais encore une fois, c'est si vraiment ça coince. Il arrive souvent que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord. Hein. Ils votent la même version du texte, c'est bon, terminé. D'ailleurs, c'est important. L'Assemblée nationale, en première lecture, vote une première version du texte. OK ? L'envoie au Sénat. Et si le Sénat, il est d'accord ? Bah, il vote. Fin de la navette. On fait pas des allers-retours pour le plaisir. C'est juste, c'est terminé. Voilà, on a un accord. Le Parlement français a adopté. C'est bon. Dans le cas où l'Assemblée a le dernier mot, elle est libre de reprendre la version du texte qui lui plaît, même si cette version était rejetée par le Sénat. Oui. Combien de lois en moyenne sont votées par an? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, ouais, on va en parler. On va en parler parce que les 20 ans de statistiques de l'activité normative sur le site Vie Publique, Didadidadoum, casse-toi, indicateur législatif. Ça a l'air d'être une quarantaine de lois. Par an? Ça me paraît peu. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que une loi n'est pas égale à une loi, à une autre loi. Ça marche, enfin, on peut pas comparer des lois. Vous avez des lois extrêmement courtes, d'un article, qui autorise l'État à ratifier un traité international. Vous avez vu la dernière fois avant l'émotion, avant l'engagement du 49-3? L'Assemblée nationale a voté une loi autorisant l'État à signer un traité international avec la Roumanie sur le permis de conduire. Donc, non mais pardon, mais c'est le quotidien de la vie d'un pays, c'est que des fois il y a des trucs comme ça, faut juste les adopter parce que on avance quoi. On travaille. C'était la Moldavie, c'était la Moldavie. Vous avez raison, c'était la Moldavie. Voilà, donc la France, vous serez ravis d'apprendre que la France va signer un traité international avec la Moldavie pour faire correspondre des tuyaux administratifs sur le permis de conduire. Autant vous dire que ça a été adopté à l'unanimité de l'Assemblée nationale, pas un seul amendement. Tout le monde s'en branle. Enfin, c'est pas que tout le monde s'en branle, c'est que c'est administratif en fait, faut avancer là. Voilà. Donc ça c'est une loi. Voilà, c'est une loi. C'est une loi, un acte du Parlement qui détermine, qui décide une loi. Mais vous avez aussi à côté une loi, comme par exemple le budget. Le budget, c'est des milliers de pages. C'est des milliers de pages de choses extrêmement techniques qui mobilisent des milliers de fonctionnaires de la DGFiP pour préparer tout ce merdier. Tous les ministères sont mobilisés, en tout cas leur direction financière, et le truc va avoir un impact dans la vie de tous les citoyens français. Mais c'est une loi, le budget, c'est une loi. Donc c'est pour ça, quand on demande combien de lois sont votées par an, j'ai envie de vous dire de quoi on parle en fait. Si on vote des lois avec la Moldavie, ou en tout cas du même genre, on peut en faire, on peut en voter 40 par jour. Par contre, des budgets, on n'en fait qu'un par an. Et encore, en ce moment, on en fait moins de un par an. Mais bon, ça, c'est en ce moment. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup, absolument. L'abolition de la peine de mort, c'était très court et clivant. La longueur n'est pas un critère d'importance. Oui, tu as parfaitement raison. Vous pouvez changer le monde avec un document d'une seule page. Genre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Voilà. Pouvez abolir la peine de mort avec un seul article. Et à l'inverse, vous pouvez écrire des lois, mais vous pouvez en faire des tartines d'articles plus ou moins abscons, sans intérêt, des trucs administrativos pas intéressants, pas importants, qui touchent pas grand monde et tout. Bon, bah voilà. Merci, Lord Tassine. C'est l'Assemblée nationale qui se prononce sur les motions de censure, donc pourquoi le texte est-il quand même renvoyé au Sénat ? Précisément parce que les motions de censure ne sont adoptées qu'à l'Assemblée nationale. Encore une fois, le 49-3, je vous le redis, ça n'existe pas au Sénat, ça n'existe qu'à l'Assemblée. Le 49-3 permet au gouvernement de faire adopter une loi à l'Assemblée. Puis, la loi va au Sénat. Puis, elle revient à l'Assemblée. Mais il n'y a pas de 49-3 au Sénat. C'est aussi l'intérêt de l'indépendance du Sénat, qui peut travailler librement sans être sous la menace d'un article tel que le 49-3, par exemple. Comme le disaient bon nombre de mes profs de droit, nos élus sont atteints d'une diarrhée législative. C'était évidemment une image abusive, mais il y a du vrai tout de même. Alors, oui, il y a un phénomène qui n'est pas que français, qui s'appelle l'inflation législative. Si on regarde des critères d'évaluation du nombre de textes qui sont soumis au vote, du nombre d'articles dans les textes et du nombre de mots utilisés dans les articles, on constate que sur le temps long, il y a de plus en plus de lois année après année. Et ce phénomène d'inflation législative fait l'objet de travaux de recherche de la part de scientifiques, de travaux de discussions entre juristes aussi. Ça fait aussi l'objet d'une mobilisation de certains législateurs à l'Assemblée nationale comme au Sénat, qui essayent de limiter un petit peu le phénomène en disant qu'on vote trop de lois, on vote des lois trop bavardes, ce à quoi les autres répondent, on le fait pour de bonnes raisons, notamment compte tenu de l'augmentation de la technicité et de la spécificité du monde qui nous entoure. On adapte, on met en place des législations de manière à ce que ça fitte le mieux possible avec les comportements des citoyens, des justiciables, etc. Alors peut-être qu'à l'époque de la Troisième République, c'était un peu plus facile qu'aujourd'hui de voter des lois simples. Mais peut-être que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, effectivement, il y a des subtilités qui nécessitent une adaptation dans les lois quand on les écrit. Ça a commencé avec Sarko, un fait divers égale un projet de loi. Ouais. Ce serait malhonnête de dire que c'est le premier à l'avoir inventé, mais en tout cas de l'avoir pratiqué. Mais effectivement, il y a aussi un usage de la loi comme d'un élément de communication et de positionnement de la part d'un gouvernement. Un gouvernement s'enorgueillit de faire passer un projet de loi. Donc il en fait un élément de politique. C'est bien normal, c'est un gouvernement après tout. Ce qui fait que du coup, tous les ministères ont envie d'avoir leur loi. Tous les ministres ont envie d'avoir leur loi. Bon, ça bouchonne au bout d'un moment, quoi. Mais je suis pas en train de vous dire... Je défends pas le phénomène d'inflation législative en disant que c'est naturel et qu'après tout, c'est comme ça, etc. Ça doit mener à une réflexion globale. Je me méfie, je vous avoue, hein, je me méfie des politiques qui font des effets de manche en prononçant des discours devant leurs partisans et en disant qu'il faut réduire l'inflation législative. C'est un peu comme les politiques qui disent qu'il faut supprimer les agences et les comités Théodule. Ouais, peut-être, mais lesquels ? Je sens que la discussion ne va pas me plaire. Voilà, bah c'est un peu pareil avec l'inflation législative. Donc, la simplification, etc. J'entends souvent cette émission, c'est quoi un théodule? Un comité théodule, c'est une expression qui a été utilisée par Charles de Gaulle, je crois, pour désigner une espèce d'instance de réunion entre des gens qu'on ne sait pas très bien qui c'est et qui décident dont on ne sait pas très bien quoi. Voilà, c'est un truc vague, c'est un comité superflu qu'on pourrait supprimer, que ça ne changerait pas grand-chose au quotidien des gens. Voilà. Donc pareil, voilà, pareil, les politiques, ça mange pas de pain, c'est un peu démagogue, mais ça permet d'obtenir de la sympathie facilement. Les politiques vous promettront la suppression des comités Théodule, l'allègement de l'État, de toutes ces agences qui se marchent sur les pieds, de ce millefeuille administratif et autres expressions à la con pour désigner bien souvent des coupes claires dans des effectifs de fonctionnaires et toujours dirigées vers des ministères dont ils estiment qu'ils ne servent pas à grand-chose. Mais ça, c'est un point de vue. Et on peut être tout à fait en désaccord avec ça. Par exemple, il y en a en ce moment qui proposent, je soumets ça à votre sagacité, il y en a qui proposent la suppression de l'ADEME. Non, mais c'est une idée, c'est une idée. Il y en a, j'en ai entendu, qui proposent la suppression de l'Office français de la biodiversité. Ouais. Non, mais c'est. Voilà quoi. Des petites propositions comme ça, tu vois, tranquille, tranquille. La suppression des ARS. Oui, la suppression des ARS. J'ai déjà entendu ça aussi, ouais. La suppression des ARS. La suppression de l'ARCOM. La suppression de France Télévisions et de Radio France. Non, mais. Voilà. Et c'est proposé par des gens très sérieux dans le débat public, sous couvert de lutte contre les comités Théodule, les agences qui servent à rien, l'État obèse, etc. Alors qu'en réalité, ils font de la politique. Le CNC, bien sûr, le CNC qui est menacé de suppression aussi. Voilà, donc en fait, mon problème, il est là. Mon problème, il est là. Mon problème, il est que sous couvert de fausse bonne foi et de bon sens, on cache des objectifs politiques, idéologiques, et c'est pas un gros mot dans ma bouche, idéologiques, et je préférais qu'on les assume. Voilà, je préférais qu'on les assume. Je préférais que les gens soient sincères et honnêtes et disent je veux supprimer l'ADEME parce que je veux pas mener de politique écologique. Voilà, c'est tout, point barre. Supprimons la Cour de justice de la République. Bah ça, pour le coup, je suis pour. Mais pour le coup, tout le monde est pour. mais ouais. Ouais, supprimons les élections, supprimons. La fin du CNC serait ultra-violente. La fin du CNC, alors pour le coup, Sébastien Chenu, pardon, vice-président de l'Assemblée nationale, du Rassemblement national, a eu le mérite d'être honnête et clair. Sébastien Chenu a dit que la qualité d'un film se juge à son nombre d'entrées. Ben voilà. Non mais très bien, il a le mérite de la clarté, de la sincérité, de l'honnêteté. Oui à un cinéma dominé par des superproductions américaines. C'est souhaitable pour la France que demain à l'affiche dans vos cinémas, vous n'ayez que des blockbusters américains. Et peut-être chinois demain, qui sait. Bon, bah c'est un point de vue. Disons, voilà, disons que c'est un point de vue qu'à titre personnel, je ne partage pas parce que je n'ai pas cette vision-là de la culture et de son avenir, mais bon, écoutez, on est en désaccord. Shane, c'est le nec plus ultra de la fashion, du coup. Bah, si on pousse les curseurs jusqu'au bout. Non, mais c'est le paradoxe du libéralisme. Hein. C'est le paradoxe du libéralisme. Si on pousse les curseurs jusqu'au bout et qu'on les applique à d'autres secteurs automobiles, oui. Oui. Shein, c'est formidable. C'est pas cher. C'est très bien. C'est un soutien au pouvoir d'achat des Français. Pourquoi la fin de la Cour suprême de justice? Non, c'est la Cour de justice de la République, la CJR. La Cour de justice de la République a été inventée dans les années 80-90. C'est une cour de justice qui sert à juger les ministres pour des délits qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions. Séparation des pouvoirs, tout ça, tout ça. La Cour de justice de la République, en fait, elle a été créée pour de bonnes raisons. Et il faut la supprimer aujourd'hui pour de bonnes raisons aussi. La Cour de justice de la République, elle a été créée parce qu'il fallait juger les ministres. Il y avait eu des affaires politico-judiciaires, politico-financières, pardon, où les ministres n'étaient pas inquiétés en justice, l'opinion publique trouvait ça dégueulasse, etc. Ils avaient bien raison. Donc on a inventé la CJR parce qu'il fallait bien apporter une réponse. Donc c'est plutôt bien. Merci, Axio Chamomila. Le truc, c'est que à l'exercice, la Cour de justice de la République s'est avérée assez décevante dans le sens où elle avait d'autres problèmes, comme déjà un problème philosophique qui est que ce sont des politiques qui jugent des politiques. Ce qui fait que, y a un peu un sentiment de justice des copains, qui se traduit aussi par le fait que les jugements de la Cour de justice de la République ont été jugés par l'opinion publique, souvent trop faibles au regard de la gravité que trouvait l'opinion publique des faits, etc. C'est un peu le problème, malheureusement, de l'opinion publique en matière de justice, hein. C'est pas les sondages qui rendent la justice, et heureusement, parce que c'est plus subtil que ça, plus compliqué, plus machin et tout. Donc, bref, tout ça est voilà. Donc, ça, il y avait d'une part ce problème-là, il y avait d'une part ce problème-là, et d'autre part, il y avait aussi des problèmes de juridiction qui se marchent sur les pieds parce qu'il y avait des ministres, d'anciens ministres, qui étaient poursuivis par la Cour de justice de la République et en même temps au civil devant la juridiction judiciaire. Sur des faits voisins, enfin bref. Et on se retrouvait dans des situations absurdes où la CJR et la justice n'avaient pas le même point de vue. Mec, il était à la fois coupable et pas coupable. Enfin, tu vois, des trucs un peu. Bref. Tout ça pour dire que dans les années 2000 et 2010, de plus en plus de voix se sont élevées pour dire que peut-être il serait temps de mettre fin à la Cour de justice de la République et à créer un véritable circuit qui permet à la justice normale de juger les ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, tout en apportant éventuellement les garanties nécessaires à la séparation des pouvoirs, si voilà, à discuter. Voilà. Donc voilà pourquoi la Cour de justice de la République, c'est pas une mauvaise idée. L'exécution a montré des problèmes et peut-être il faut passer à autre chose. Voilà. On en est là, on en est là. Je voulais résumer grosso merdo. Je voulais résumer grosso merdo. Ça n'a pas été créé suite au scandale du sang contaminé. La Cour de justice de la République n'a pas été créée suite au scandale du sang contaminé, mais elle s'est prononcée dans le cadre du scandale du sang contaminé, notamment sur la responsabilité de Laurent Fabius, qui était ministre de la Santé à ce moment-là, je crois, et d'autres responsables. Donc voilà. Je sais plus, c'est eux le responsable mais pas coupable. Responsable mais pas coupable est une expression qui a été utilisée par je sais pas qui pour parler d'une fonctionnaire du ministère de la Santé. En fait, c'est une phrase qu'on a accolée à Laurent Fabius, alors que ça n'a jamais été... Alors que ça n'a jamais été prononcé à propos de lui. C'était pendant l'affaire du sang contaminé, oui. Alors oui, ça a été repris par les inconnus après, qui en ont fait une blagounette très drôle d'ailleurs. Mais ouais, c'était au moment du sang contaminé. Mais c'est pas, en fait, on parlait pas de Fabius, quoi. Mais c'est marrant parce que tout le monde se focus sur Fabius. Le sang contaminé, Kezako. Le sang contaminé est un scandale qui a éclaté dans les années 1980. En fait, il y a eu des poches de sang, de donneurs de sang, qui étaient contaminés par le sida. Le VIH, pardon. Et ces poches de sang ont été utilisées pour faire des transfusions sanguines, notamment vers des hémophiles, et notamment vers des enfants. Des enfants qui se sont donc vus inoculer le VIH sans le savoir. Et là où il y a scandale, c'est que les autorités sanitaires de l'époque ont pour le moins tardé à réagir. Pour plein de raisons qui ont fait l'objet d'instructions, etc. Pas particulièrement de raisons malicieuses, mais des raisons quand même graves, parce qu'on se retrouve avec un contrôle inefficace, des alertes non prises en compte par des gens qui auraient sans doute dû les prendre en compte plus vite, agir plus rapidement, faire quelque chose, bouger leur cul, etc. C'est facile à dire après coup, maintenant qu'il y a des enfants qui sont morts, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Le sang contaminé, je me souviens, j'ai bossé dessus au ministère de la Santé, rétrospectivement, le sang contaminé a aussi été l'occasion d'une vraie avancée, pour le coup, de nos processus de décision en matière de santé et en matière de prévalence, en matière d'alerte. En gros, je vous la fais courte, mais à l'époque du sang contaminé, le ministère de la Santé faisait la pluie et le beau temps, première et en dernière instance, dans les décisions de sécurité sanitaire. Et c'est ça qui a merdé aussi au moment du sang contaminé. Après le sang contaminé, on a commencé à développer en France l'indépendance de la recherche en biologie, sur toutes les questions de contamination, etc. En fait, il ne faut pas que l'autorité ministérielle soit la seule à décider s'il y a un problème ou pas de problème. Ça doit pas fonctionner comme ça. On n'est pas en URSS avec Tchernobyl. On est dans un pays libre d'Europe de l'Ouest. On est dans un monde dans lequel les chercheurs doivent être autonomes, indépendants. Des laboratoires privés doivent pouvoir tirer la sonnette d'alarme s'ils détectent un problème grave. Les recherches doivent être transparentes. Les chercheurs doivent se parler. C'est pas, voilà. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Pareil pour les familles des familles des patients, en fait, les patients eux-mêmes, les associations de patients, les familles de patients, etc. Ça n'existait presque pas à l'époque du sang contaminé. T'étais malade, tu fermais ta gueule. Les médecins avaient raison, tu te taisais. Les associations de familles de patients, pff, jamais entendu parler. On s'en branlait, il n'y avait pas de démocratie en santé à l'époque. Bon. Bah voilà, il a fallu aussi et le sang contaminé il y a eu des morts, hein, donc c'est quand même terrible. Le sang contaminé a aussi permis ça, une évolution dans notre système de santé, qui permet une recherche indépendante, qui permet des autorités indépendantes du pouvoir politique, du pouvoir administratif, de je sais pas qui, de tirer la sonnette d'alarme, d'agir, de prendre des décisions, rapidement, etc. Voilà, version courte, ce qui s'est passé à ce moment-là. Vive la démocratie en santé, il y a encore beaucoup à faire pour en faire une réalité plus concrète. Grave. Non, non, mais bien sûr, c'est encore un processus en cours, mais ça progresse quand même. Ça progresse, et heureusement, c'est important. J'avais un prof en SHS, en médecine, qui disait que le sida avait été positif sur le plan de l'intégration de la vie des patients et de la création du rôle du patient expert. Oui, c'est vrai. Enfin, oui, bien sûr. Je suis loin d'être aussi calé que ton prof, mais ça ne m'étonne pas, effectivement. Les choses ont beaucoup changé, hein, dans les années 70, 80, etc. Les choses continuent à changer aujourd'hui, d'ailleurs. Les pratiques changent, les praticiens changent aussi. Il y a aussi des générations. C'est un truc que j'ai appris et qui m'a beaucoup intéressé quand j'étais au ministère de la Santé, c'est que les aspirants médecins, les étudiants en médecine ont des envies de pratiques, de méthodes de travail qui sont pas les mêmes que leurs aînés. Le grand ponte de la médecine autoritaire, adulé par ses ouailles, etc., c'est un peu un modèle du passé. Alors ça existe encore, malheureusement, mais. Les Didier Raoult, là. Non, mais voilà. Ça existe encore, mais si vous travaillez sur ce à quoi aspirent les praticiens en santé pour leur méthode de travail, ils sont beaucoup plus sur de l'horizontalité, ils veulent du dialogue avec les équipes, ils veulent progresser tous ensemble, travailler en lien avec les chercheurs, avec les patients, ils veulent être à l'écoute des patients, ils veulent travailler avec les patients. Voilà, les choses changent et c'est cool. Dans les filières SP, malheureusement, il y a encore des chefs de service stars. Oui, ça ne m'étonne pas. Non, non, mais ça ne m'étonne pas. Je me doute bien que ça va encore exister pendant un bout de temps. Les praticiens n'aspirent pas vraiment à ça. C'est toujours tout pour la corporation et leur salaire mirobolant. D'accord. Si tu veux. Les erreurs et accidents médicaux existeront toujours et c'est triste. Et c'est tristement normal. Néanmoins, oui, l'image du médecin a changé. Ce ne sont plus les notables avec des positions toutes puissantes. Et il faut que ça change. Oui, si les erreurs et les accidents médicaux continuent à exister, c'est la question de leur prise en compte, de leur traitement, de l'accompagnement des patients, de leur reconnaissance aussi. Je viens d'arriver, je ne sais pas de quoi on parle, donc je suis d'accord avec vous. On parle du fait que les médecins en ont absolument rien à foutre de la médecine et de leurs patients, qu'ils pensent qu'à leur carrière et leur argent et leur corporation. Suffit de voir la prise en charge des personnes trans qui doivent avoir des parcours parmi les plus horribles et humiliants pour les prises en charge, souvent même hors des parcours légaux. Ouais. Oui, bien sûr. Non, mais il y a clairement encore beaucoup de choses à faire. Il y a clairement encore beaucoup de choses à faire pour faire progresser notre système de santé. Et heureusement, enfin, je veux dire, c'est pareil pour l'éducation nationale, pareil pour la police, pareil. Il y a du boulot partout. Ils appartiennent à l'entreprise France République et sont donc des mercenaires sur le sol français. Non, mais on avait déjà établi que c'était moyennement drôle. Enfin, si c'est drôle, parce que c'est quand même très drôle, mais... Ouais, je sais pas, non, mais je suis gêné aux entournures. J'ai un humour de merde, donc je rigole, mais je suis gêné aux entournures avec les citoyens souverains, là, et les complotistes en général. Du coup, je dois arrêter d'applaudir tous les soirs à mon balcon. Non, non, tu dois continuer, tu dois continuer. Il faut applaudir à 20h au balcon. Si on n'a pas de balcon, ah bah on tombe par la fenêtre. C'est terrible. Compliqué de soutenir les toubibs quand ils se plaignent de l'encadrement des tarifs en se cachant derrière le budget insuffisant et le dialogue social. Ah bah vous gérerez les manifestations de médecins. Hein. Moi j'ai donné, hein, j'ai donné. On a fait le tiers payant généralisé à l'époque. J'ai donné les syndicats de médecins. Rien à voir avec le sujet actuel, mais la candidature de Villepin en 2027, est-ce que c'est une perspective crédible? Quel soutien des groupes parlementaires il pourrait avoir, étant donné qu'il ne s'aligne plus du tout avec ce que sont devenus les Républicains? Arriverait-il à rallier plus au centre, en lieu et place de Philippe, tout en ayant une position affichée sur la transition écologique et un État social plutôt interventionniste? Ah, tu reposes la question qu'on aime bien. Tu reposes la question qu'on aime bien. De Villepin 2027. Possible, pas possible, qu'est-ce qu'on en pense? Dominique de Villepin opère un retour depuis 2 ans sur la scène médiatique. Il se rend à des interviews et il prend la parole, il écrit, il parle, voilà, il s'exprime. Il fait, comme tu l'as dit très bien dans ton message, effectivement, il fait entendre une petite musique différente à droite et au centre. Sur la question écologique, sur la question sociale, sur la question internationale, qui est quand même son domaine de prédilection, est-ce que Dominique de Villepin va présenter une candidature à l'élection présidentielle? C'est possible, mais c'est possible aussi qu'il fasse entendre ça de manière à continuer à être invité dans les médias. C'est ça aussi, être candidat probable à l'élection présidentielle, c'est un statut pas mal, puisque ça vous attire de la sympathie de la part des programmateurs des émissions de radio et de télévision, de la part des éditeurs qui veulent vous publier. de la part de citoyens qui vous croisent dans la rue. Bref, voilà. Peut-être que de Villepin est juste content d'avoir ce statut-là de probable candidat, mais qu'en fait, il ne sera pas candidat véritablement. Ensuite, tu poses la question de quels sont les soutiens des groupes parlementaires. En fait, on s'en fout. En vrai. Ça, s'il y a bien un truc que j'ai appris au cours des 10-15 dernières années, c'est que le fait d'avoir des députés ou de ne pas en avoir ne change rien à ta capacité à faire un bon score à une élection présidentielle si tu es candidat. Les Français s'en branlent de savoir si tu as des députés ou pas. Marine Le Pen a fait des scores à 20% alors qu'elle avait deux ou trois députés. Emmanuel Macron a été élu avec zéro député. Donc, bon. Voilà. Donc, voilà, je sais pas. En tout cas, moi, je suis comme toi. Je suis curieux je suis curieux d'entendre Dominique de Villepin éventuellement développer un peu davantage cette espèce de troisième voie qu'il essaye de faire ressusciter à droite, c'est-à-dire une tentative de retour du chiracisme, un truc qui se rapproche un petit peu de ce que pourrait être un Xavier Bertrand. À discuter, il y a des nuances évidemment. Une espèce de quelque chose qui marche sur les plates-bandes d'Édouard Philippe, c'est vrai. Un centre-droit. Ouais, je sais pas. Je suis curieux. Quelle possibilité a-t-il pour les législatives? Villepin? Pas ouf, hein. Parce que, alors, il pourrait peut-être être élu, lui, sur son nom, s'il se présente dans une circonscription gagnable. Mais ensuite, il faudrait qu'il présente des candidats dans les circos. Sais pas. Encore du centre droit, c'est pas un peu crowded dans le spectre politique cet endroit? Non, parce que. Enfin, on peut en discuter, t'as raison, mais depuis que Bruno Retailleau a été élu président des Républicains, on peut pas nier que ça permet d'ouvrir un espace. Bruno Retailleau, c'est quand même la droite dure. T'es pas vraiment le centre droit. Du reste, au centre droit, t'as raison, il y a un peu toute la Macronie, mais en fait, à part Édouard Philippe, qui est vraiment identifié sur ce créneau-là? Pas grand monde. Donc ça, y a pas tant de monde que ça, je trouve, au centre droit. Mais t'as raison, le centre droit n'est pas un espace politique gigantesque en France. Entre le macronisme et les républicains, c'est quand même compliqué, quoi. Attal, il est bien centre droit. Ouais, mais Attal, il est encore fidèle à. Enfin, non, c'est pas vrai parce qu'il se déteste, mais il est encore fidèle au macronisme originel. Attal, il est très identifié macroniste. Là où un Édouard Philippe parvient à avoir une autonomie de son côté. Ça lui coûte cher, mais il a une autonomie. S'il y a une dissolution, c'est en réponse à un potentiel aboutissement de la motion de censure de demain ou c'est juste comme ça? Non, c'est en cas d'aboutissement de la motion de censure de demain. Raison pour laquelle il faut que tu sois demain matin sur ma chaîne. Et que tu t'abonnes. Par ailleurs, mais ça c'est. Enfin bref. Il se déteste vraiment ou c'est un move pour avoir une chance pour les prochaines élections? Attal et... Bah, Attal et... Enfin, pardon, mais Attal et Macron, je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale alors que Gabriel Attal était Premier ministre. Ça a été un move sans retour hein, pour leur relation. Ça s'est très mal passé. Gabriel Attal a essayé de décourager au maximum Emmanuel Macron de faire ça. Il n'a pas réussi. Donc, non, les relations sont pourraves. Hein. Gabriel Attal propose de refonder du sol au plafond le parti, Renaissance. Il a fait un grand meeting, je me souviens, j'avais regardé son discours il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Pour dire qu'en gros, il faut refaire Renaissance du sol au plafond, sous-entendu, il faut que Renaissance s'émancipe de d'Emmanuel Macron. Pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, il n'est pas allé jusqu'à demander la démission d'Emmanuel Macron comme l'a fait Édouard Philippe. Ça, faut dire, ça, faut reconnaître, c'était un peu vénère. Là, Édouard Philippe, t'es allé loin quand même. Hein. Bon, tu fais ce que tu veux, hein, mais. Ah non, c'est chaud quand même. Démission. Non, Attal n'est pas allé jusque-là. Mais surtout, je vois toujours pas l'intérêt pour la France que Macron démissionne. Il n'y en a pas. Le seul intérêt, c'est de déclencher une nouvelle élection présidentielle, ce qui pourrait être dans l'intérêt de certains opposants à Emmanuel Macron qui le veulent. Mais... Voilà. Suite à ça, Édouard Philippe a perdu des points dans les sondages, ça l'a vite calmé. Ouais. Oui, non, 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 mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On l'avait déjà analysé ensemble. On se disait que Édouard Philippe a trop s'émancipé de Macron, risquait de perdre le soutien des macronistes. Ce qui est quand même dommage quand tu as été Premier ministre d'Emmanuel Macron il y a 8 ans. Alors certes, en fait, c'est oui, faut tenir une distance critique avec Macron, mais le coup de couteau dans le dos du chef, c'est pas ouf. Donc ouais, Édouard Philippe, il a perdu du soutien à ce moment-là. Il a perdu du soutien à ce moment-là. Il a aussi été vu comme un homme trop pressé, puisque je vous rappelle qu'Édouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle. Donc forcément, demander la démission d'Emmanuel Macron, c'est vouloir vite qu'il y ait une élection présidentielle. Et ça, les Français, ils sont pas dupes. Ils l'ont vu, ils ont fait, hey, frère, je crois qu'on t'a pas vu là. Petit homme pressé. Voilà. Donc, bon. On verra, ça peut encore être surprenant, voilà, il peut encore se passer beaucoup de choses. Édouard Philippe, il va perdre des points à chaque fois qu'il va parler, il a le programme de Fillon. C'est une très bonne chose s'il a le programme de Fillon. Fillon, il a fait 20%, je vous rappelle. Ça, si Édouard Philippe fait 20%, on va pas se mentir, c'est le roi du pétrole. N'est-il pas choquant d'un point de vue démocratique qu'Emmanuel Macron refuse de démissionner alors que plus des trois quarts des gens veulent activement son départ? C'est choquant dans un monde où les sondages sont souverains. Voilà. Monde dans lequel on rentrera peut-être un jour. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On est dans un truc où il y a des élections qui déterminent la légitimité à gouverner pour une durée de 5 ans. Et la notoriété, la popularité ne sont pas des mesures efficaces de la légitimité d'un pouvoir, quel qu'il soit. Je ne sais plus quel homme politique avait dit « Si j'avais voulu être populaire, j'aurais fait Miss France. » Ça résume assez bien, je trouve, l'idée que tu peux te faire de l'intérêt général. Je suis pas là pour être aimé. Chirac? Ah, c'était peut-être Chirac. Ouais, c'était peut-être. Ah, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas de mon Chirac. La primaire à gauche, ça en est où? C'est mal barré. La primaire à gauche, c'est mal barré. Le processus de primaire à gauche a été lancé l'été dernier avec le format Bayeux qui avait été réuni autour de Lucie Castet. Dans le processus étaient réunies trois forces politiques, les socialistes, les écologistes et Génération et l'après. Les communistes étaient les bienvenus s'ils le souhaitaient, mais pour l'instant, ils ne le souhaitent pas. On verra plus tard. On était censé avoir des nouvelles en décembre. On n'en a pas eu. On est maintenant en janvier. Et alors, c'est compliqué parce que, en fait, les socialistes ne sont plus sûrs de faire partie du processus. Les socialistes ne sont plus sûrs de faire partie du processus parce que le PS est divisé. T'as la moitié du PS, en gros, qui veut participer à la primaire, avec Olivier Faure, qui en fait partie, et tu as l'autre moitié du PS qui a réussi à faire adopter en Conseil national au Parti socialiste un texte interdisant à Olivier Faure d'engager le Parti socialiste dans une primaire. Donc on est censé avoir plus d'infos bientôt. Voilà. J'ai pas d'infos, j'en ai pas reçu, je sais pas. Je pense que tout le monde est en ce moment pendu au téléphone pour essayer de trouver une solution. Mais on en est là, quoi. Si cette primaire a lieu, elle aura lieu au cours de l'automne prochain, a priori. C'est à peu près dans ces eaux-là qu'ont lieu les primaires. J'ai hâte de voir 12 candidats de gauche au premier tour. Ah, on va rigoler, ouais. C'est quoi une primaire? Ça sert à quoi concrètement? Une primaire, c'est une élection qui est interne à un parti politique ou un regroupement de partis politiques. Et une primaire, ça sert à désigner, non pas un élu, mais un candidat à l'élection. C'est une élection avant l'élection pour se mettre d'accord, pour choisir un candidat ou une candidate qui va nous représenter à l'élection. Voilà. C'est à ça que ça sert une primaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des pays dans lesquels c'est très institué, notamment les États-Unis, pour des raisons historiques et le bipartisme fait qu'ils organisent des primaires pour déterminer, c'est un peu l'équivalent des congrès, pour déterminer comment ça va se passer. En France, c'est plus récent. Les primaires, il faut vraiment attendre les années 2000 pour qu'on commence à avoir des primaires en France. Il y en a eu pas mal depuis, avec des résultats plus ou moins mitigés, plus ou moins réussis. Et voilà. En gros, gagner une primaire ne te garantit pas de faire un bon score à l'élection présidentielle. C'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai. Voilà. Ça peut être un plus, contextuellement. Mais c'est pas en soi un élément suffisant pour déterminer une capacité à gagner, quoi. Est-ce qu'il y avait eu une primaire pour Hidalgo? Non, Anne Hidalgo n'avait pas du tout été désignée par un processus de primaire. Anne Hidalgo a été désignée par les instances dirigeantes du Parti Socialiste. Voilà. Ça a marché pour Hollande, ça a marché pour Hollande, ça a marché pour Ségolène Royal, ça a marché pour François Fillon. Et le reste du et les autres, ça a pas marché, voire pas marché du tout. Alors ça dépend ce qu'on appelle marché, encore une fois, c'est toujours compliqué. Pécresse. Pécresse, je suis emmerdé parce que elle a fait un score rikiki à l'élection présidentielle, donc on peut en déduire que ça n'a pas marché. Ok, n'empêche que le processus de primaire des Républicains, qui a désigné Valérie Pécresse, a permis de rassembler le parti. Ce qui n'était pas gagné du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Le parti LR était éclaté. Chacun avait créé sa propre écurie de son côté, c'était le bordel, et ils se sont tous rassemblés dans une primaire. Ça a eu au moins ce mérite-là. Ça ne leur a pas permis de faire un bon score à l'élection présidentielle, certes. Ça leur a permis d'exister à l'Assemblée nationale. Benoît Hamon, ça n'a pas trop fonctionné. Non, Benoît Hamon, ça n'a pas trop fonctionné parce que la primaire qui a désigné Benoît Hamon était une espèce de non-primaire qui ne servait pas du tout à désigner un candidat, qui servait à solder le quinquennat de François Hollande. C'était le pire scénario possible pour un candidat à l'élection présidentielle. De toute façon, c'est absurde que François Hollande ne se soit pas présenté à sa propre succession. À partir du moment où il a pris cette décision-là, c'était sûr que le PS n'allait pas faire un score. Donc le pauvre Benoît Hamon, il s'est retrouvé à l'idée d'une campagne de critique du hollandisme, alors qu'il portait l'héritage du hollandisme. Enfin, tu vois, c'était absurde. En tout cas, il représentait le parti qui portait l'héritage du hollandisme. Moi, je pense que le pauvre Benoît Hamon, il a fait ce qu'il a pu. Je trouve qu'il n'a pas fait une si mauvaise campagne que ça, compte tenu des circonstances. Mais voilà. Mais c'était infernal pour Benoît Hamon. Je ne sais pas comment il aurait pu faire quoi que ce soit. C'est surtout Valls qui n'a pas respecté la primaire, mais me faites pas croire un quart de seconde que Manuel Valls était en mesure d'apporter des voix à qui que ce soit. Je suis désolé. Manuel Valls en 2017, mais c'est rigolo. Enfin, c'est juste une blague. Me faites pas croire que Benoît Hamon aurait gagné la présidentielle si Valls l'avait soutenu. Je vous en supplie. Non, je refuserai toujours cette analyse-là. Enfin, encore une fois, à l'époque, moi je me souviens de ce que disaient les socialistes à l'époque quand Valls s'est barré pour rejoindre Macron. Les socialistes disaient « tant mieux ». Merci. Au moins c'est plus clair. Ça a le mérite d'être clair. Merci Manuel. Ciao.
Symboliquement, ça fait mal quand même de montrer une telle fracture du parti.
Non. Non, là, attends, le Parti Socialiste, c'est un siècle de fracture. Il va très bien, le Parti Socialiste. Hein. Il en a vu d'autres, pas de souci. Non. Par ailleurs, encore une fois, les militants socialistes ont voté majoritairement pour choisir Benoît Hamon comme candidat. Benoît Hamon était un frondeur. Benoît Hamon contestait la politique de Manuel Valls. Okay ? Le fait que Manuel Valls se barre, c'est juste une acceptation par Manuel Valls du résultat du vote des militants socialistes. C'est les militants socialistes qui ont dit au revoir à Manuel Valls. C'est pas lui qui est parti tout seul. Il a compris le message. Il a fait « Ok, c'est bon, je l'ai. Ciao. » Donc,
Encore une fois, les socialistes de l'époque, ils n'ont pas vécu ça ni comme une trahison de Manuel Valls ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'était une clarification utile et nécessaire. Ciao, Manuel. Oui, mais on le présente encore comme un homme de gauche. On le présente comme on veut, t'es pas obligé d'acquiescer. Pas grave. Elle va passer la motion demain, tu penses? Si tu t'abonnes, elle peut passer. Si tu t'abonnes pas, ça va être dur. Vous savez, les députés sont sensibles à ces indicateurs-là. Ils regardent ça de près. Ils voient, ils jaugent, ils sentent un peu comme ça. Wauquiez a annoncé que LR ne votera pas la censure, ce qui est déjà officiel, ne passera pas. Merci, Itiz. Merci, merci. Merci à toi. Non, non, mais je sais, pardon, je rigolais. Hein. Non, les motions de censure demain ne passeront pas. Non, les motions de censure demain ne passeront très probablement pas. Ce qui ne vous... ce qui ne vous excuse pas de regarder le stream de Jean Mascier, de ne pas regarder le stream de Jean Mascier. Ça reste obligatoire, hein, que même si les motions de censure ont pas de chance de passer. Moi, en ce qui me concerne, et dans le cadre de mon rôle de streamer, je vais faire mon maximum pour maintenir le suspense narratif, faire monter la pression, le doute. C'est mon travail. Voilà. Pour ce qui vous concerne, ne soyez pas dupes. Mais ça, c'est notre relation parasociale à vous et moi, ça, on est ensemble. LR s'est quand même mis dans une situation impossible avec cette histoire. Ils sont perçus comme ne cherchant qu'à protéger leur poste et par la population et par les macronistes qui savent que ça ne sert à rien de négocier avec eux vu qu'ils ne censureront jamais. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur cette espèce d'absurdité de la position des Républicains qui sont vraiment les dindons de la farce parce qu'en fait, on sait bien qu'ils censureront pas. On sait bien qu'ils iront pas jusqu'à la censure. Donc partant de là, qu'est-ce que ça sert de négocier avec eux? C'est les socialistes qu'il faut convaincre. Donc c'est aux socialistes qu'on va faire des concessions. Et voilà comment on se retrouve avec un budget dans lequel il y a trop de concessions aux socialistes selon les républicains, mais les républicains ne vont pas censurer pour autant. Ouais. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Après, que va en penser l'opinion publique? Que vont en penser les électeurs des Républicains qui fonctionnent peut-être pas de la même manière que les autres électeurs, notamment à gauche? Donc honnêtement, ça, j'ai du mal à le voir, j'ai du mal à le saisir. Ça dépendra beaucoup des dynamiques de candidature et de désignation de candidats pour la présidentielle de la part des Républicains. Bon, on peut être surpris par LR. On peut être surpris par LR. LR est capable de faire un bon score à une élection présidentielle si les électeurs de droite sentent que Jordan Bardella n'est pas à la hauteur et que le macronisme est finissant, alors peut-être que les républicains tireront les marrons du feu à droite et à gauche et réussiront à monter. C'est possible. Je sais pas. On verra. Premier degré, le PS, il parle à qui? Qui à gauche comprend la ligne PS? Le PS, par le passé, il a fait des millions et des millions d'électeurs. Hein. Ces gens-là, ils sont pas morts. Ils sont toujours là. Ils votent toujours. Ce qu'essaye de reconstituer le Parti Socialiste, je le suppose, c'est son électorat historique. T'en as une partie qui est partie chez Macron en 2017. T'en as une partie qui est partie chez la France Insoumise. Il essaye de parler aux deux. Pour l'instant, je pense qu'il parle plus aux électeurs partis chez Macron qu'à ceux partis chez la France Insoumise. Et encore, voilà. Ils sont à LFI, ces gens-là. Oui, mais c'est jamais éternel. Regarde, ils ont été au PS. C'est jamais éternel. Aucun parti politique n'est propriétaire de son électorat. Perso, je suis plus compatible avec la ligne PS que celle LFI qui a jeté trois premiers ministres dans les bras de la droite à être trop obtus. T'es sûr que c'est LFI qui a fait ça? Ils ont le dos large, mais faut pas pousser, quoi. Mais je vois. Oui. Ouais, bon. Le PS était dans une position difficile, il était menacé d'être complètement phagocyté. Je sais pas. Ouais, peut-être. Du mal à le voir comme ça, mais... Le positionnement d'LFI est toujours compliqué entre la gauche et l'extrême gauche. Ça surfe un peu à ce niveau. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Je veux dire, les gens qui sont opposés à LFI, qui voteront jamais pour eux, considèrent que de toute façon, ils sont d'extrême gauche et c'est des vilains gauchistes. Bon, d'accord, très bien. Les gens d'extrême gauche considèrent que LFI, c'est des mous. Mais bon, c'est peut-être un mal nécessaire pour réussir à se qualifier à une présidentielle. Bon. Et leurs électeurs, ils en ont absolument rien à foutre. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de ça. Je sais pas. Ouais. La gauche a laissé libre champ à la droite et à l'extrême droite. Oh. Toujours de la faute de la gauche, hein, de toute façon. Moi, je trouve que c'est que Révolution Permanente et le NPA, qui sont un peu mous, LFI, c'est vraiment du centre-centre-gauche, tellement je suis vraiment plus à gauche que tout ça. Je suis sûr que tu trolles. je sais qu'il y en a, ça existe. Oui, ça existe vraiment. Il y a des gens qui disent ça. Mais toi, je suis sûr que tu trolles. Je sais pas pourquoi, je sens que tu trolles. LFI, c'est presque la droite. LFI ne se résume pas à Méluche. Non. Certes. Disons qu'il y a une place importante, non négligeable. Il n'y a pas que Méluche, il y a Jean-Luc aussi. Ah, vous êtes bête. Il y a le vieux aussi. LFI sans Mélenchon, c'est clairement pas 20% à la présidentielle. Je suis pas sûr. J'aurais peut-être été d'accord avec toi il y a quelques années. Je me dis que la France Insoumise, ils ont quand même construit un mouvement, une marque, des visages, des noms que les gens connaissent. Quand je dis les gens qui sont proches d'LFI, évidemment, leurs électeurs aussi, sans doute en partie, même si Jean-Luc Mélenchon reste la marque phare et star de la France Insoumise, et t'as intérêt à mettre sa tronche sur ton tract si tu veux que les gens le prennent. Je ne sais pas si la France Insoumise serait incapable de faire un bon score, même sans Jean-Luc Mélenchon. Le nom est connu, le positionnement est clair. Et puis les gens ont déjà voté plusieurs fois, y compris pour la France insoumise. Donc ça commence à rentrer aussi les habitudes, tu vois. Je sais pas, je sais pas. Un bon score, ouais, mais pas 20%. Oui, d'accord, ok, oui, bon. Mettons un 15%. Aux européennes, c'était beaucoup moins qu'aux présidentielles. Oui, c'est vrai, mais les européennes, déjà, bon, voilà. Et ensuite, oui, c'est oui, non, oui, c'est vrai. Manon Aubry, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat de LFI, qui le sera? Eh ben, il faudra organiser une primaire ou un autre mode de désignation de candidat. De la démocratie interne? Pas nécessairement. Ça fait un moment que JLM prépare la suite du mouvement, même sans lui. Bompard, Guettet, Panos sont des lieutenants très affirmés. Oui, c'était aussi le cas de Ruffin, Corbière et Autain, en leur temps. Oui. Et Quatennens, oui, et Quatennens. LFI a fait plus de 20% à la dernière élection présidentielle. Oui, LFI a fait 22%. Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à la présidentielle en 2022. C'est ça, non? Je me trompe? Je sais plus. Tu me fous le doute. Bonjour, je découvre ta chaîne. J'ai vu le titre, vous avez déjà traité le sujet. Ouais, on en a déjà parlé. Mais demain matin, il y a des motions de censure. Hein. Faut que tu reviennes demain matin. Hein. C'est demain matin le spectacle. Hein. C'est demain matin que la chaîne, elle est bien. Hein. Au présidentiel, Panot n'a aucune chance. Non, mais moi, je vous ai déjà dit, moi, j'arrête de dire qui a une chance ou pas à la présidentielle. Moi, je me suis déjà fait baiser. Hein. Je me suis déjà fait baiser par Hollande, je me suis déjà fait baiser par Macron. C'est bon. Ça, maintenant, j'arrête. C'est bon. J'arrête de dire machin, il a aucune chance et tout. À chaque fois, on est surpris. À chaque fois, on se prend une tarte et on dit ah, ah ouais? Ah putain, on n'aurait pas dit, hein? Ben voilà, à chaque fois. Donc bon, avant ça va. Macron réélu en 2022, tu l'avais? Oui. D'une manière générale, t'as pas de score de ouf en matière de prévision. Certes, mais vous êtes pas bien meilleur non plus. Alors, commencez pas, hein. Commencez pas. Parce que. Penses-tu que Macron passera député le temps de pouvoir se représenter? Oh, j'adorerais, mais non. Vous imaginez Emmanuel Macron député? La parole est à monsieur le député Emmanuel Macron. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Les fortes précipitations des neiges dans le département de la Savoie bloquer l'autoroute. Oh. Non, mieux. Non, non, mieux. Attendez, non, non, je réfléchis. J'ai l'esprit d'escalier. J'ai l'esprit d'escalier. Vous me connaissez, je suis machiavélique. Alors, Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République en 2027. Emmanuel Macron devient député d'opposition. Emmanuel Macron est président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et Jean-Luc Mélenchon n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Avec qui? Jean-Luc Mélenchon est-il obligé de négocier pour faire voter le moindre texte et le moindre budget? Bonjour. Alors comme ça, vous voulez faire un budget? Ah, vous voulez faire un budget. C'est intéressant comme idée. Et vous voulez qu'on le vote? Ah. Ah ouais, on pourrait, c'est possible. Faut voir. Qu'est-ce que vous proposez? Exactement. C'est quoi le plan? Oh, on va rigoler. C'est pas gentil ce que tu fais. Blague à part, je vous invite à vous y préparer. Je rigole pas. Je rigole. Je sais pas qui va être élu président de la République en 2027. Je sais pas. Mais je suis quasiment certain qu'il n'aura pas une majorité absolue de députés. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais voilà. Tu penses qu'il va faire quoi Macron après? Bah, j'en sais rien. Déjà, je ne sais pas quelles sont ses envies à Emmanuel Macron. Et mine de rien, c'est important. Est-ce qu'il a envie de se retirer et écrire des livres? Peut-être. Est-ce qu'il a envie de rester dans le game d'une manière ou d'une autre? Peut-être. Est-ce qu'il veut jouer un rôle international dans les institutions européennes? Est-ce qu'il veut faire du fric? Je pense pas. Je crois pas qu'Emmanuel Macron soit. Enfin, je veux dire, il a déjà eu une vie de banquier d'affaires par le passé. C'est bon, il a déjà fait. Ça, à mon avis, ça l'excite plus, ça. Est-ce qu'il veut succéder à von der Leyen? Alors, jouer un rôle dans les institutions européennes. Pour un ancien président de la République en exercice, pour un ancien président de la République, pardon, membre du Conseil européen, etc., c'est compliqué. Soit c'est président de la Commission européenne, mais ça c'est exécutif, c'est vénère, c'est voilà. Il faut qu'il soit soutenu par la France. Et ça, c'est pas donné, c'est pas sûr. Ça dépendra de son successeur ou de sa successeuse. Mais c'est vraiment pas certain qu'Emmanuel Macron sera soutenu par la France. Nicolas Sarkozy caressait l'idée de devenir président du Conseil européen. Comment dire que François Hollande l'a refroidi? Le FMI, oui, alors après j'en sais rien, le FMI, la BCE, il y a déjà Christine Lagarde. Le FMI, la Banque centrale, je sais pas. Non, mais en vrai, je sais pas. Surtout, le problème que j'ai, c'est que je ne connais pas ses envies. Je connais pas ses envies, je connais pas ses aspirations. Est-ce qu'il a envie de revenir en politique en France? Déjà, est-ce qu'il a envie de redevenir président de la République un jour? C'est déjà une première question. En fonction, tu peux prendre des décisions, machin. Tu peux te positionner, tu peux faire quelque chose, faire autre chose et tout. Je sais pas. Emmanuel Macron est un ancien, est un président très jeune. Il a été élu à 39 ans président de la République. Il va quitter l'Élysée après 10 ans à moins de 50 ans d'âge. C'est très jeune. Bon, bah, il a encore une vie devant lui, hein. Est-ce qu'il y a des reconversions marrantes d'anciens présidents par le passé? Non. Non, il n'y a rien de marrant. Soit ils étaient trop vieux, ils sont morts très vite. De Gaulle, il a été député. Pas De Gaulle, pardon, Giscard, il a été député et président de région. Hollande, il a créé une fondation et il est redevenu député. Sarko, il est avocat et il donne des conférences. Il a joué le rôle d'un prisonnier dans un court-métrage. Bon. Non, il n'y a rien de très rigolo, hein. Merci, la strap. Il peut très potentiellement rejoindre un cabinet de conseil. Macron? Un cabinet de conseil? Non, mais quand t'as été président de la République, un cabinet de conseil, au secours! Mais tu te fais chier! Enfin, pardon, hein, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du conseil. À taper tes petits PowerPoint, là? Préparer tes presse clients? Envoyer des devis? Faire de l'analytique? Sur des tableurs Excel? Mais sans déconner, ça fait chier. Oh. Déposer ses congés auprès de son boss. Poser ses congés auprès de son manager. Je peux prendre une semaine de congé parce qu'avec Brigitte, on voudrait aller au Touquet. Non, non, mais non, mais non, mais bien sûr que non, tu fais pas ça. Non, je sais pas. Écoutez, j'en sais rien. J'en ai pas parlé avec lui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bu une bière avec Emmanuel. Je sais pas ce qu'il veut faire après. Je sais pas si. Voilà. Peut-être se reposer un peu. Peut-être il veut devenir streamer. Non. En tant que président de la République, est-ce que ça ouvre des droits à France Travail? J'espère, hein. Et j'espère qu'ils cotisent, hein. Eh oh! On va envoyer l'URSSAF à l'Élysée, hein. Cotisation, allez hop hop hop, ouverture de droits, chôme dû pendant 2 ans, le temps de créer ta start-up. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait créer comme boîte, Emmanuel Macron. Il a été banquier d'affaires par le passé, il a été président de la République. Dans l'industrie, probablement pas. Dans la tech, probablement pas. Dans la finance, qu'est-ce qu'il va s'emmerder à retourner dans son métier d'avant? C'est bon, il a déjà donné. Ouais, non, en vrai, plus j'y réfléchis, plus je me dis que je le vois bien écrire des bouquins et donner des conférences. Voilà. Donner des confs dans le monde entier, écrire des bouquins, exister, se mettre un peu en retrait pour revenir plus tard, éventuellement. Mais je vois pas d'autres trucs, je vois rien d'autre en fait, je sais pas. Il va faire comme Marlène Schiappa, il va faire de la télé-réalité. Faire du théâtre? Ouais, faire du théâtre. Ouais, il adore le théâtre. Mais est-ce qu'il va être comédien? Est-ce qu'il va écrire des pièces de théâtre? Est-ce qu'il va être metteur en scène? Est-ce qu'il va être producteur? Il va faire Danse avec les stars. Embauché à Radio Nova. Essayer de devenir président d'un autre pays. Il va se présenter à Barcelone et il va gagner. Pour que l'humiliation soit totale. Ah, il va se mettre bien, ouais. Merci Milouf. Ouais, non, bon, écoutez, moi je pense que bouquin conférence, ça me paraît le duo, en tout cas dans un premier temps, parce que je sais pas, j'arrive pas à l'imaginer faire autre chose. Je suis convaincu qu'il a aucune envie de bosser dans une entreprise ou être banquier d'affaires, il l'a déjà fait, ça l'excite pas. Merci Nero Live, merci. Je vais y aller parce que j'ai une bonne excuse, j'ai une bonne excuse. Je vais y aller parce que je dois aller boire des coups avec l'équipe de Baxit. Voilà, ce soir on fait le pot de rentrée de Baxit avec l'équipe et les chroniqueurs et tout machin à picoler. On est content de se retrouver après les vacances de Noël et je vous rappelle que la prochaine émission Baxit aura lieu la semaine prochaine, jeudi prochain.
Demain matin, mettez votre réveil, je veux rien savoir, attention, hein. S'il y a des retardataires, ça va mal se mettre, hein. Demain matin, stream à 8h ou 9h, je sais pas encore. 8h, je pense. Pour un début d'examen des motions de censure à 9h. Ok? On va faire un raid. On va faire un raid chez Raphaël Arnaud, tiens. Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise. Raphaël Arnaud, député antifasciste. Je vous préviens, il est insoumis. Si vous n'avez pas envie d'écouter les insoumis, n'hésitez pas à quitter le stream, il n'y a pas de souci. Il est actuellement en stream, tiré de chez lui. Soyez sympa avec lui. Passez une bonne soirée. Il est en train de parler de l'actu, apparemment. Il est en train de débriefer l'actu. Rendez-vous demain matin. Je vous fais des poutous. Merci d'avoir été là. Et voilà, à demain. Salut tout le monde. Ciao, ciao.
C'est un peu trop socialiste. C'est-à-dire qu'on nous, vous savez, dans les médias, on nous présente la France insoumise comme les affreux dangers, l'organisation.